Bonjour les joueurs et bonjour les joueuses, nous sommes en avril 2025 et vous écoutez Le Pour et le Contre, une émission proposée par ProxyJeux. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Julien et si je suis ici, c'est avant tout pour vous partager mes craintes. En effet, notre beau royaume n'a plus de nouvelles des grandes villes avoisinantes. La reine a invité notre guilde des expéditions marchandes à lui présenter les aventuriers les plus courageux pour réunifier le royaume et j'ai justement sous la main deux explorateurs prêts à en découdre pour défendre ou non cette grande quête. Dans le camp du pour, j'accueille celui qui n'hésite jamais à enfiler ses bottes, même pour patauger dans la gadoue, tant qu'il est question de contrôle de territoire. Reconnu dans le royaume comme descendant direct de Copernic, même dans la nuit, la tête à l'envers et après avoir fait 10 tours sur lui-même, il lui est impossible de perdre le nord. Salut Artouf, prêt à nous convaincre que l'aventure en vaut la peine ?
Ah oui, prêt à en convaincre tout le monde, même Flavien. Tu verras, à la fin, il dit il sera pour.
J'espère pour toi. Et donc, en effet, dans le camp du contre, notre sage Flavien, qui croit davantage dans les échanges culturels que dans toute autre quête d'enrichissement capitaliste. Celui qui préfère boire un verre au port plutôt que de se noyer en mer, on raconte même qu'il serait en train d'écrire un pamphlet sur la reine pour imposer des idées à propos de, comment tu dis déjà, droit du travail chez les explorateurs. Salut Flavien, prêt à nous expliquer pourquoi la prudence est de mise ?
Salut Julien, salut Bartouf, salut les auditeurs, les auditrices, et oui, je suis prêt, effectivement, dans le coin du contre. On en discutera, mais je suis prêt déjà à concéder quelques arguments pour sans aucun problème. Il y a des choses à sauver dans ce titre. Voilà, ravi d'être là à nouveau, surtout que la dernière fois, les gens ont eu l'impression que j'étais dans le camp du contre avec Pionfesseur contre Bartouf. C'était Sir Kingdom Builder, dont on reparlera peut-être un moment. Mais alors que, en fait, alors, la faute est sur moi, parce que c'est que j'ai mal animé le truc et que j'ai mal présenté. Parce que moi, je suis plutôt dans le camp du milieu et plutôt pour Kingdom Builder. C'est un jeu que j'aime bien, que je possède toujours. Mais du coup, j'ai dû mal m'exprimer et mal. J'ai dû plus. Mettre en avant les trucs qui m'embêtaient dans le jeu plus que les autres et du coup les gens ont cru que j'étais avec Pionf alors que bon là je suis vraiment dans le coin du contre sans doute moins dans le contre qu'en général le Pionf quand il est dans le contre tu vois
en nuance toujours en tout cas
ouais non pas forcément en nuance mais dans la mollesse aujourd'hui
dans la mollesse et pas disons Ok, bon bah moi je vais essayer en tout cas d'être assez impartial et surtout d'avoir mon rôle, le bon rôle que je vais avoir. J'ai bien sûr mon avis sur le jeu, mais je vais pas forcément trop en parler, peut-être à la fin, on verra.
Mais avant, il est important de remercier la Caverne du Gobelin, qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
Et on remercie aussi vous, les donateurs et donatrices qui nous écoutez. On remercie pour cet épisode Chacado, Dr. Cheu, Collignon, Sam Chakit, Apicha, Hugo, Volring, Geoffrey, Eightpool, La Famille Gerpet et El Piero 50. Merci à vous. Pour rappel, vous pouvez soutenir ce podcast pour des questions matérielles, par exemple pour en ce moment on diffuse des interviews du film, ben, si elles ont été réalisées dans les conditions correctes, c'est notamment grâce aux dons que vous pouvez faire soit par PayPal, soit idéalement pour éviter les prélèvements et tout par un virement en nous contactant. Voilà.
Eh bien, avant de commencer à parler du jeu en question, donc la guilde des expéditions marchandes, vous l'aurez peut-être connu, on va revenir sur les commentaires de l'émission précédente qui était en février 2025. C'était sur Colt Express. Un jeu, j'imagine, auquel on a joué tous les trois, je pense, vu le succès.
Oui.
Et ce jeu opposait le Pionfesseur et Kurt. On a eu 8 commentaires. Un premier commentaire de Zodberg, qui en veut un petit peu au Pionfesseur, même physiquement, j'ai l'impression. Le Pionfesseur proposait, en effet, de rendre plus punitifs les tirs. Il trouvait que, finalement, en termes de thématique, se prendre une balle, c'était juste un petit handicap de carte dans sa pioche, ce qui n'était pas dingo. Et Zodberg, apparemment, a l'air de pas trop aimer le jeu, a même pas fini la partie, il nous dit qu'il a rage quitte le jeu, carrément. Et il trouve que c'est déjà suffisamment punitif d'avoir, en effet, des mains de temps en temps blindées de balles. Donc Zorberg était clairement du côté de Kurt sur ce jeu. On a eu aussi un commentaire de Kozniku qui saluait le courage de Kurt de s'attaquer au Pionfesseur, parce qu'on sait que le Pionfesseur, en effet, tu l'as dit Flavien, quand il est contre, il est contre. Et Kosniku a critiqué aussi la partie de hasard, voilà, le hasard de la pioche, le hasard des récompenses, les programmations ratées. Et finalement, bah, il se retrouve vraiment dans la vie de Kurtz, je pense pour les mêmes arguments finalement que lui, et puis bah, il critiquait aussi un peu l'idée que Pionfessor se faisait en effet d'un jeu un peu plus ambiance, un peu plus familial. Et Kosniku nous dit que il pense un petit peu comme l'a suggéré Caducé lors de cette émission qui faisait arbitre, en se disant que Mascarade était finalement un jeu bien plus intéressant pour parler d'aléatoire dans un jeu d'ambiance. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que Colt Express marche très très bien, et c'est pas du tout frustrant finalement d'avoir ce côté hasardeux dans ce jeu, mais bon.
Ouais, on va pas refaire le match, mais Mascarade, il y a pas d'aléatoire, en fait, il y a de l'inconnu, mais en fait, il y a pas d'aléatoire à proprement parler, puisque toutes les cartes, je crois, sont distribuées, peut-être que tu en prends au milieu de la table qui sont pas connues au début, mais c'est de l'inconnu de la par des actions des joueurs et joueuses.
Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je dois avouer que je m'en souviens plus trop.
Tu sais, les cartes circulent et tout, et c'est juste pas du tout le même type de jeu. Colt Express, c'est un jeu de programmation qui raconte une histoire, qui est là pour retranscrire des sensations de cinématographiques, comme l'a dit Pionfesseur. Moi, je suis clairement pour aussi. Je trouve que c'est très fort la cohérence qu'il arrive à apporter Colt Express là-dedans, en mêlant sa mécanique, son sentiment de jeu, et tout le reste, matériel, mise en scène et compagnie.
Ouais. Pareil. Et enfin, Birdou, qui nous a parlé, lui, de la problématique qu'il avait avec l'équilibre des personnages, quelque chose que je reconnais. Le Pionfesseur avait proposé l'idée, finalement, que les gens s'allient contre le personnage fort pour essayer de compenser. Et Birdou, lui, a carrément expliqué qu'en fait, bah, c'est simple, quand il y a Ghost qui est pris, ou quand Bella est pris à 6 joueurs, il ne joue pas. En tout cas, il ne les propose même plus dans ses parties, tellement il trouve que ça crée un déséquilibre sur ses parties avec ses amis.
Au moins les personnes qui connaissent pas le jeu, tu vois, à ce moment-là peut-être, parce que ben tu peux pas compenser ce que tu ne connais pas, mais après tu le découvres et tu le compenses dans les parties suivantes. Mais du coup, si la première partie tu te dis c'est pété, j'ai plus envie d'y jouer, ce qui est peut-être un argument un peu faible pour dire j'ai pas envie d'y jouer, tu vois.
Après je peux comprendre d'avoir quelque chose de vraiment très équilibré. Après voilà, est-ce qu'on est là pour la gagne ou est-ce qu'on est là pour incarner un personnage avec des défauts et des qualités, et on sait que Ghost en effet a plus de qualités. C'est un petit débat.
Toi, Bartouf, on t'a pas entendu. Quand du cours ou du pontre? Le cours ou le contre sur Colt?
Sur Colt Express, eh ben, écoute, moi, j'ai eu qu'une partie. En fait, je vois tout l'intérêt du jeu, mais moi aussi, j'étais pas complètement convaincu. Alors, c'est pas le problème du hasard, parce que ça, que ce soit le bazar sur la table, ça me plaît. Mais peut-être que justement, un sentiment de déséquilibre m'a gêné. Mais c'est pas. En fait, c'est un jeu. Tu me le proposes, je pense que je te dirais oui. C'est juste qu'il a jamais rejoint ma ludothèque et c'est tout, quoi. Donc je peux pas dire que je sois vraiment pour ni contre, tu vois.
Ni pour ni contre, bien au contraire, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Oh, la nouvelle émission, ça. Ça sent une nouvelle émission, c'est sûr. L'émission de la mollesse.
Moi, je voulais redire deux trucs vas-y, précisément vas-y. Sur Colt Express. En fait, ils ont beaucoup parlé du genre du western, tu vois, le côté duel au soleil ou le côté tu te regardes et tout. Je trouve qu'ils ont pas évoqué le côté slapstick, en fait, qui est un autre genre cinématographique plus du côté de la comédie. Qui peut être lié au western par ailleurs, tu vois. Et pour moi, vraiment, Colt Express, cette résolution où vraiment tu mets un coup de poing dans le vide et tout, au-delà du fait de symboliser le temps réel, comme le disait Pionfesseur, je trouve qu'il y a un côté un peu comédie absurde, et je me représente exactement un film de Buster Keaton ou quoi, où je vois les trucs qui se passent comme ça et ça me fait marrer, et je trouve que du coup, c'est extrêmement bien rendu en termes de sentiment de jeu, et je me refais la scène, quoi, plutôt du côté du slapstick, du coup. Autre chose, plutôt du côté du contre, et alors j'ai plus exactement les termes qu'ils ont employés sur, tu sais, la représentation des personnages, etc., où ils ont, alors, je veux plus déformer leurs propos, mais en gros, un moment, sur Belle et Chienne, moi j'ai quand même un petit souci en termes de représentation de la part des choix de Ludonote. Alors, on pourra m'opposer que c'est parce que ça représente des archétypes, et que c'est en référence au western de l'époque, qui, en gros, considérait les femmes et les indiens plus comme secondaire, etc., et comme des, bref, voilà, qui étaient maltraités entre guillemets comme personnages dans ces films-là. À mon sens, si tu fais ça en 2015, faut questionner ce traitement-là et pas juste le représenter de la même manière. Belle et Chienne, quand même, leur nom, c'est leur genre et c'est leur tribu. Ils n'ont pas le droit à une référence cinématographique comme Django ou quoi. Ils n'ont pas d'identité à part bah toi t'es belle parce que t'es une femme et toi t'es chienne parce que t'es une indienne. Et du coup ça c'est jamais questionné par le jeu et le gameplay. Ben pareil en fait leur capacité elle a pas d'identité, enfin elle a une identité mais c'est tu vois c'est soit Cheyenne c'est la voleuse parce que c'est l'indienne et Belle c'est une femme elle est belle donc on peut pas la cibler. Ce qui sont des capacités qui pourquoi pas dans l'idée mais sauf qu'en fait ça renforce le stéréotype de genre et encore une fois. C'est les deux seules femmes du jeu, c'est les deux seules qui ont ce genre de caractérisation. Moi, je trouve que Ludonote, ils ont chié dans la colle là-dedans, ou bien s'il fallait aller là-dedans et l'utiliser un peu comme commentaire de la représentation de ces personnages dans les westerns d'époque. À un moment, il faut qu'on comprenne que tu questionnes ça, et c'est pas du tout
ouais,
le cas
dans... Ouais, d'accord. Le fait surtout qu'il y ait deux femmes et que ça leur arrive en plus à elles, on peut plus se dire que c'est du hasard, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une écriture un peu automatique et forcément un peu sexiste, et du coup, ouais, je suis d'accord que ça pose clairement problème, ouais. C'est vrai. Et c'est même ce côté humoristique qu'on peut avoir. En effet, quand on fait la résolution, je le ressens de la même façon. Je vois la scène dans ma tête et je me marre en fait de voir à quel point l'action est nulle en fait. Donc il y a un côté très comique, mais pour autant dans le jeu, c'est jamais spécialement expliqué. Et je sais pas si au final, c'est peut-être pour ça que Kurtz avait aussi un problème là-dessus, c'est que j'ai l'impression que lui, son but, c'était vraiment de se dire, je suis un bandit, il faut que j'aille récupérer cette foutue mallette. Et je pense qu'en effet, à ce moment-là, il se dit, bah, ça colle pas, en fait, on est ridicule dans la situation dans laquelle on est. Donc il y a un décalage entre ce qu'il a pensé vivre et ce qu'il a réellement vécu. Donc j'imagine qu'en lisant la règle, il a pas senti ce côté comique un peu décalé qu'il aurait dû peut-être sentir, tu vois, donc il y a un problème quelque part. De toute façon, les gens se sont fait leur avis sur ce jeu, et puis on invite les personnes qui ne connaissent pas, en tout cas, Colt Express à le tester. Je pense que c'est un jeu qui est quand même assez important à faire, en tout cas assez populaire. On va passer au jeu qui nous intéresse aujourd'hui, la Guilde des Expéditions Marchandes. Alors, on va faire un rapide tour à chaud, où vous allez pouvoir m'exprimer chacun votre tour un peu votre sentiment général très très rapidement, et surtout ce qui peut être intéressant pour les auditeurs surtout, c'est le nombre de parties que vous avez fait, la configuration, est-ce que vous y avez joué en physique, en numérique, est-ce que vous avez fait la partie solo, on en parlera quand même forcément du solo, quels étaient les joueurs avec qui vous avez joué, etc. En tout cas, pour donner un peu de contexte par rapport à vos parties sur la Guilde des Expéditions Marchandes. Je te laisse commencer, Bartouf.
Très bien. Alors, écoute, je vais prendre dans l'ordre avant de faire mon sentiment général. Le nombre de parties, je ne note pas, je ne compte pas, donc je ne sais pas. J'en ai plusieurs. Ça a toujours été en physique. J'ai jamais fait de configuration autre qu'à deux, mais ce qui est assez souvent le cas sur les duplicates, je fais rarement plus que deux. Et mon sentiment général, justement, c'est, j'adore les sentiments que me propose le jeu parce qu'à la fois j'ai l'impression d'avoir quelque chose où je sais où je vais et en même temps ce sentiment-là m'est volé dans le même instant et du coup on me le propose en quatre fois. Et cet aller-retour là-dessus, moi là c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je vois, enfin on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, mais pour moi c'est un héritier de Kingdom Builder et c'est un très digne héritier, enfin voilà. C'est tout.
Ok, impec, merci. Et toi Flavien alors ?
Alors moi du coup, comme moi je note mes parties, en tout cas je les notais déjà, j'avais acheté le jeu à la sortie, alors je me rappelle qu'il y avait des camarades de ProxyJeux qui avaient essayé un événement presse et qui avaient été mitigés sur le jeu, en tout cas des retours mitigés, ce qui moi ne m'empêche jamais d'acheter des jeux pour voir. Je l'avais pris et comme je suis un pigeon, j'avais pris en même temps l'extension aux ordres de la reine. Depuis j'ai revendu la boîte, j'ai jamais joué à son extension d'ailleurs, et j'ai revendu avec. Et j'ai joué d'abord en physique, j'ai dû faire une partie en solo en physique, j'en ai fait deux. Je l'avais découvert d'abord en numérique, sur Tabletop Simulator à l'époque, en solo pour voir. Ça m'avait pas convaincu, mais même quand j'essaye en numérique et que ça me convainc pas, je me dis vas-y, allez, on va quand même tenter le coup. Voilà, appelez-moi le mazo. Et du coup, ouais, j'ai fait deux parties à deux en physique, je pense. Une en solo en physique, et puis après, il est arrivé donc sur Board Game Arena, dont on parlera peut-être au niveau de l'ergonomie et tout ça. Et surtout pour préparer l'émission. En fait, au moment où il est arrivé sur BGA, j'ai refait une partie en solo. Depuis, j'ai rejoué avec toi Julien, avec d'autres randoms. Toujours à deux aussi, c'est la configuration qui est la plus proposée sur BGA. Et en solo pour découvrir notamment les autres maps, qui sont appelées des maps dans le jeu, M-A-2-P-E-S. Ce qui est dans le dictionnaire. Peu usité, mais au moins ça évite de confondre avec les cartes, puisqu'il y a des cartes aussi, des cartes à jouer entre guillemets dans la guilde, du coup ça évite de mélanger les deux, donc comme ça j'ai pu essayer les différentes maps en solo.
Ok, et ton sentiment rapide ?
Ah oui, mon sentiment En fait, le truc, c'est que tu vois, j'ai pas de déplaisir à y jouer particulier. En même temps, j'ai pas de plaisir particulier. Et ça fait partie des jeux, au-delà des soucis d'édition sur lesquels on reviendra rapidement, qui, moi, gâchent un peu l'expérience du jeu en physique, au point que je préfère en numérique, ce qui est un peu un problème, je trouve, pour un jeu de société. En gros, tu vois, lancer une partie comme ça sur BGA me dérange pas. Par contre, en fait, ça me procure absolument tellement peu d'émotions que c'est le genre de truc où je me dis c'est une activité que je peux faire à côté, mais de là à le faire en physique et à l'éditer et tout, c'est quelque chose que je questionne. Et malgré tout, on reviendra dessus, mais il y a quand même au moins deux points sur lesquels je trouve qu'il n'est pas inintéressant, au moins sur des points sur lesquels itérer. En gros, c'est pour ça que je parlais de Moles. C'est pas le pire jeu auquel que je vais démonter ou quoi, mais juste, en fait, c'est un jeu qui me procure de l'indifférence, qui est presque le pire des sentiments, tu vois. À la limite, si c'est un rejet franc, au moins tu ressens quelque chose. Là, c'est plus qu'il représente pas mal le game design fainéant actuel depuis contemporain, quoi, je trouve.
Ok, d'accord. C'est marrant parce que du coup, tu nous parles de Moles, et finalement, pour l'enfoncer encore plus derrière. Je vois le côté très très vicieux, finalement, derrière cette proposition.
Ah, c'est pas fait exprès, même. L'indifférence est le pire des sentiments.
Ouais, ouais. Ouais, pour les jeux de société, je sais pas. Enfin, bon, à voir, on verra. Ça sera peut-être un futur dossier, ça. Déjà, pour commencer, ce qui va être intéressant, c'est de parler un petit peu du jeu pour les gens qui ne connaissent pas trop le jeu, histoire de pouvoir aussi écouter notre émission tout en comprenant au minimum quand même un peu les règles. Donc, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, les joueurs vont être invités par la reine à rétablir les liens commerciaux avec d'autres grandes villes du royaume. L'idée, c'est que chaque joueur va disposer d'une map personnelle, donc on appelle bien une map qui est en fait une carte, qui va être quadrillée et qui va représenter des biomes. Donc on va avoir les biomes prairies, déserts, montagnes et mers. La partie va se dérouler en 4 âges, et donc c'est ce que disait Bartouf, ces 4 âges vont créer le rythme et la dynamique dans la partie, et aussi finalement un timer, parce qu'on va refaire 4 fois à peu près la même chose, avec des petites variantes à chaque fois. À chaque tour, donc, on va tirer une carte exploration de la pioche, qui va indiquer un type de biome où les joueurs vont devoir placer des cubes. Donc c'est là où il y a une particularité très importante, et on va forcément en reparler, c'est que ce sont des cubes qu'on va placer sur les cases de notre map. Ces cubes doivent toujours être connectés les uns aux autres, ou par des villages. Donc les villages, ce sont des petits cubes en forme de village qu'on va rajouter aussi sur la carte. À chaque fin d'âge, quand la pioche exploration va être épuisée, les joueurs vont retirer tous les cubes de la map, et on va ajouter une nouvelle carte dans la pioche exploration qui va représenter le nouvel âge. On va forcément parler de ça parce que ça va créer une forme d'asymétrie, ce qui est un élément extrêmement important dans le jeu. Ensuite, l'expédition va commencer à prendre son sens parce que lorsque l'on va remplir une région, donc une région, ce sont les cases d'un même biome, donc il va y avoir 4 cases, je sais pas, prairies par exemple, si on les remplit avec un cube, enfin, donc on va avoir 4 cubes sur ces 4 cases de prairie, les joueurs vont pouvoir placer un village, donc ce fameux pion village. Et ce village, contrairement au cube, il va rester entre les âges. Donc c'est cette impression un peu de saut de mouton, ça va permettre finalement, je faisais l'analogie l'autre fois de Fog of War, un peu l'idée comme dans les anciens jeux vidéo, d'avoir un territoire qui va grossir comme ça au fur et à mesure, et donc il va falloir faire le choix, est-ce que on va loin pour se développer, mais en prenant le risque finalement de pas y arriver. Voilà, c'est toute une question de stratégie. Et donc la partie va se faire comme ça, petit à petit. La Guilde des Expéditions Marchandes, c'est un jeu de Matthew Dunstan, qui est assez connu, Brett Gilbert aussi, donc c'est du co-autorat, et c'est illustré par Gerald Landman. Et ces deux auteurs, Dunstan et Gilbert, c'est pas leur premier jeu ensemble, ils ont fait Elysium, que j'avais testé il y a longtemps, et personnellement, c'est un très bon souvenir, Elysium, je sais pas si vous y avez joué.
C'est excellent, Elysium. Incroyable.
Oui, c'est formidable. Ouais.
Donc c'est pas des amateurs, quoi.
Non, et ils ont vraiment très souvent collaboré ensemble. Pour le meilleur ou pour le pire, pour moi, ça fait partie de ces auteurs. Alors, ils collaborent souvent aussi avec Trevor Benjamin. Et vraiment, ils ont fait des trucs super, genre Elysium, ou Mandala, par exemple. Alors, c'est que Brett et Gilbert, ils ont aussi monté ensemble. Et ça te concerne, Julien, pour ta chronique. Un petit éditeur qui s'appelle Good Little Games, qui sont des petits print and play où il y a à boire et à manger. Donc,
ok.
Dans la production un peu alternative, c'est intéressant aussi,
ouais,
tu vois.
J'irai voir.
Mais ils ont aussi fait des grosses bousses, quoi. Enfin, c'est vraiment des auteurs qui créent pour manger, ou du coup, ils créent beaucoup de choses, et beaucoup de choses oubliables, comme par exemple, c'est My Shellfish, je crois que Dunstan, il a fait avec Phil Walker Harding, ou bien ils ont fait Fairy Tail, qui est un jeu très très mauvais pour les enfants. Ils ont fait Village Rails, qui est pas sorti en français, qui paraît assez dispensable chez Osprey, et récemment, Prey Another Day, dans un autre style, qui a pas mal fait parler l'année dernière, et qui est issu justement, avant c'était un print and play dans leur éditeur Good Little Games. Donc c'est un duo d'auteurs intéressant.
On va comme ça pouvoir voir si en effet la guide des expéditions marchandes est un jeu qui permet de bouffer ou est-ce que c'est un vrai bon jeu. On va pouvoir justement.
Ça peut être les deux.
Ça peut être les deux. Oui, oui, c'est vrai que ça. Bah, Elysium, je pense, a plutôt bien marché. Donc, en effet, il a peut-être permis de remplir quelques assiettes. Du coup, ce jeu, la Guilde des expéditions marchandes, a été édité en 2023 en France chez Origame. Et si on fait un petit tour sur BGG, mais on y apprend, et puis sur la boîte aussi, que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour une durée de 40 minutes, ce qui est pour une fois pas trop faux. Enfin, je trouve que les parties sont à peu près de ce temps-là. Hein. Pour une fois, ça colle plutôt bien. Sur BGG, du coup, il est noté 7,7, je trouve que c'est une très très bonne note, 7,7. Et c'est pareil, en rang, et bah c'est pas rien. 388e au classement général, 241e en jeu de stratégie, je suis très étonné, 69e en jeu famille. Alors là, je trouve que c'est énorme, 69. J'aurais pas forcément vu ce jeu-là en jeu famille si haut, mais bon. Le jeu est également disponible donc en version numérique, tu en avais parlé, sur BGA par exemple, et il a une popularité qui est assez importante, parce qu'on trouve grosso modo entre 1000 et 1500 parties à tout moment. Comme c'est un jeu en solo aussi, il faut un petit peu nuancer, parce que y a plein de gens qui lancent des parties en solo et puis qui les finissent jamais, et donc du coup, il compte forcément dans les parties en cours. Mais bon, ça reste quand même un succès assez important. Alors, moi j'ai vu noter une grosse différence sur BGA, sur les cartes, enfin les maps. On va pas appeler ça les cartes, on va appeler ça les maps, on va prendre les bons termes. De base, ils proposent la map, entre guillemets, A, qui est la map débutante. Et dès qu'on veut jouer aux autres, par contre, il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui y jouent. Alors que quand on joue physiquement, on a ce plaisir de pouvoir quand même voir la boîte, de voir les maps, de les découvrir, et ça donne forcément beaucoup plus envie d'y jouer. Donc voilà, ça c'est quand même une grosse limitation du numérique, où on ne se rend pas compte de finalement ce qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, donc si vous pouvez y jouer en physique, c'est quand même plus intéressant, toujours, hein, de toute façon. Et enfin, donc le jeu a été nommé au Kinnerspiel de 2024, dans la catégorie Kinnerspiel, du coup, et a perdu face à Die Break, jeu que je n'ai pas fait. Et enfin, pour finir, en effet, Flavien, tu en avais parlé, il y a eu une extension qui s'appelle Aux Ordres de la Reine, et donc qui rajoute deux nouvelles maps, et une sorte de support qu'on peut rajouter sur la map et qui agrandit la map. Donc déjà que je trouve que c'est difficile d'aller d'est en est ou de nord en ouest, enfin de nord en sud plutôt, si on rajoute en plus un morceau de map, je me dis que ça doit être encore plus compliqué. Ah,
peut-être que ça rajoute des cartes et que du coup chaque manche est plus longue, je sais pas.
Je crois que ça rajoute en effet des cartes.
Non. Alors c'est juste des nouvelles maps. Pour le coup, et donc du coup c'est assez agréable comme extension, enfin, c'est-à-dire que tu vois il y a juste des règles qui sont propres à cette map mais rien de plus, et ce petite extension de terrain c'est parce qu'en fait c'est juste la règle, c'est il faut tout est très séparé, il y a plein de petites îles et faut aller sur le plus d'îles possible parce que ça rapporte des points si tu arrives sur une île nouvelle où t'as jamais été. C'est tout, ça agrandit juste la map et ça te force à aller plus loin.
D'accord.
C'est tout.
Mais alors ce module, tu peux aussi l'adapter sur les maps du jeu d'origine ou c'est que sur les deux nouvelles ?
Juste sur une de la nouvelle. C'est juste qu'ils ont pas refait. Ah, oui. En gros, ils auraient juste dû faire une carte, une map plus grande, tu vois, que le bout de papier soit plus grand, et ils l'ont juste
d'accord.
Ajouté avec un truc inutile. Ça fera partie des questions de l'édition, où il y a des contresens importants.
Ouais, parce que j'avais pas vu ça comme ça. Bon, je pense qu'on a été assez complet sur la présentation du jeu, on va pouvoir commencer le débat. Alors, on va faire finalement quelque chose d'assez simple, un peu fleuve finalement, on va voir après comment le débat va s'organiser entre vous. Moi je vais être un arbitre finalement qui va plutôt se concentrer sur la passation de parole et voir s'il n'y a pas d'injure entre vous deux, ça c'est important d'avoir des débats polis. Et la question va être assez simple, comme on parle d'un jeu d'expédition, comme on représente la guilde des expéditions marchandes, eh bien finalement, est-ce que la promesse de l'expédition vous semble cohérente avec ce jeu ? Et je vais commencer par Bartouf, qui défend forcément le jeu d'aujourd'hui.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce jeu-là, tu vois, il parle d'expédition, mais il faut pas se représenter ça comme un Maps of Mystera ou alors même un Cartographers, parce que la map, la carte, elle est visible par nous. On sait exactement où sont les biomes, enfin, on voit tout. Tout est visible. Et donc, c'est pas tant ça, c'est plutôt l'idée de, il faut qu'on reprenne des connexions sur une carte qu'on connaît déjà, il faut qu'on aille retourner, refaire le tour de ces endroits-là, dont on sait comment ils sont, mais la question c'est, est-ce qu'il y a un village ? Et donc, on découvre le village, justement, dans un côté thématique, enfin, si on peut dire, en découvrant toute une région, et là, d'un coup, hop, on a un village, et ça nous fera un nouveau point pour la suite. Mais au niveau du thème et donc de cette question de l'exploration. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'être sur quelque chose type viking et on fait des raids successifs et on s'implante à certains endroits et à certains endroits on fait du commerce, à d'autres on va piller, à d'autres on s'implante effectivement et on pourra repartir de là ou pas. Je pense que ça aurait été, ça aurait plus marché dans ce sens-là et ça serait plus proche de ce qu'on vit, c'est-à-dire on a des ressources en un sens pour faire une première expédition, aller à un endroit où on connaît déjà la carte, et puis on s'arrête là, et l'année prochaine, on refera une expédition, enfin un raid plutôt, à un autre endroit.
Un peu plus loin, quoi.
C'est ça.
Ouais, ouais, c'est assez juste, je trouve. Parce que c'est un peu comme si l'hiver venait, tu vois, et que ben il faut se resédentariser, soit dans notre revenir un peu à notre point de départ, soit avoir réussi à se sédentariser ailleurs pour résister à l'hiver, et puis ensuite au printemps venu ou à l'été repartir un peu en expédition. Je trouve ton idée, que ce soit viking ou pas, en tout cas plutôt mieux. Et ce que tu soulèves est aussi très juste, c'est-à-dire que tous ces trucs, c'est ce que tu disais avec le Fog of War, Julien, c'est très difficile à, c'est plus difficile à rendre en tout cas dans un jeu de société à plateau fixe que dans un jeu vidéo. C'est faisable, tu vois, dans des jeux où tu vas retourner les tuiles petit à petit, comme je crois c'est Mage Knight qui fait ça, tu vois, des trucs où tu vas petit à petit retrouver un peu ce sentiment de brouillard de guerre, hein, en français.
Voilà, oui, c'est ça. Faut peut-être expliquer pour les gens qui connaissent pas et qui sont pas forcément habitués aux jeux vidéo, c'est l'idée que sur les pourtours du champ de vision, entre guillemets, on a une brume qui empêche de voir totalement ce qu'il y a derrière. Et là, c'est vrai que par rapport au jeu, en fait, on a la connaissance de la carte. Donc, en fait, on sait ce qu'il y a derrière. C'est juste qu'on ne sait pas précisément ce qui se trouve sur la case. Mais de toute façon, ce qu'on va créer, enfin, ce qu'il y a sur la case, on va le créer nous-mêmes. Donc, il n'y a pas du tout cette idée d'inconnu. Et c'est vrai qu'en jeu de société, c'est très enfin, ça demande beaucoup de matériel, quoi.
Bah, c'est faisable, mais il faut juste retourner des tuiles que tu mets au hasard. Effectivement, ben, ouais. Il faut les disposer. Là, c'est pas l'ambition de la guilde, et ça aurait été un autre jeu, en fait, tout simplement. C'est dans les, juste pour préciser, le brouillard de guerre, souvent, c'est, parce qu'on pourrait se dire, par exemple, dans Zelda Breath of the Wild, tu vois, il n'y a pas le brouillard de guerre, mais en fait, le fait qu'on soit à la troisième personne à échelle assez basse, il y a un horizon, il y a des collines qui fait que ce brouillard de guerre est à hauteur d'humain. C'est souvent plus dans ce qu'on appelle des STR, des jeux de stratégie en temps réel, où il y a du conflit et où c'est vu top down et où il y a une minimap également qui se dévoile petit à petit. Donc et vas-y Bartouf.
Mais oui, et le jeu dont vous parlez, enfin que vous imaginez là comme ça, existe et il s'appelle Santa Cruz. Et justement l'idée dans Santa Cruz, c'était d'aller sur une île, tu la découvrais, donc tu retournais effectivement des jetons qui avaient été mis face cachée. Tu venais une première fois, le volcan explosait, donc tu devais repartir. Et quand tu reviens la deuxième fois, donc la partie est en deux temps. Et quand tu reviens, par contre, tu sais où sont les choses. Tu vois, elles ont été révélées. Et donc là, tu vas refaire une conquête de l'île, mais différemment parce que tu as la connaissance de qu'est-ce qu'il y a derrière.
Et également, pour revenir sur... en fait, c'est un problème récurrent des jeux où on connaît le territoire. Y a des chroniques à faire hein, sur la question du territoire en jeu de société, c'est vachement intéressant. Même un cartographeur, en fait, un cartographeur, c'est un god game où c'est toi qui crée le territoire, mais c'est pas toi qui le découvre. Donc il est pas là précédemment, contrairement à la guilde. Mais en fait, t'es là et tu vas poser ici et là des montagnes, des machins, des trucs. Et en fait, toujours problématique, ces trucs qui te proposent, qui semblent te proposer de l'exploration et qui, en fait, ont un level design qui est déjà figé, que tu connais déjà. Il y a comme une espèce de promesse sur... en fait, c'est pas du tout des jeux d'exploration, quoi. Et finalement, des vrais jeux d'exploration comme ça, avec de l'inconnu, de l'aventure, par justement la découverte du territoire, il y en a pas tant que ça. Souvent, c'est plus, ouais, c'est plus toi qui terraforme le territoire, ou bien c'est toi qui te déplaces sur un territoire, comme si t'avais, tu vois, ce que tu disais, Bartouf, comme si avant notre époque du jeu, quelqu'un avait déjà cartographié l'ensemble du monde, et que donc, on s'y déplaçait, mais en connaissant déjà ce qui s'y trouve, au point de, même les petites pièces qui s'y trouvent, on sait qu'elles sont là, quoi.
Si on reprend vraiment les règles du jeu, la présentation du lore, on est un peu quand même dans cette présentation-là, c'est que, on nous dit, on a un territoire, notre reine connaît forcément son territoire, on a une carte, cette carte, elle existe parce qu'on l'a déjà établie, et c'est juste que, on n'a pas de nouvelles des villages avoisinants. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que le Fog of War, la brume, quoi, n'aurait pas forcément d'intérêt parce que la map sur laquelle le jeu est joué est finalement l'équivalent d'une carte, pas une carte au trésor, mais en tout cas une carte géographique connue des lieux connus. Et c'est juste que, je sais pas pourquoi, c'est vrai que en termes thématiques, ça colle pas. On sait pas ce que sont devenus les villages. Là, le problème, c'est qu'on va placer les villages. Donc c'est là où il y a peut-être, en effet, quelque chose qui peut un petit peu bugger, qui a un petit peu un défaut. Mais en tout cas, je vois mal, le jeu ne propose pas, en tout cas, du Fog of War. Il propose réellement de repartir sur quelque chose de connu pour finalement... Il parle d'expédition, donc finalement, c'est pas... Moi, je trouve que ça colle plutôt bien. Je trouve que le choix est plutôt cohérent.
Après, il y a un problème vis-à-vis du titre. En fait, le titre en anglais, donc le titre original, c'est Guild of Merchant Explorers. Donc, on retrouve vraiment l'exploration marchande. On peut se questionner sur le marchand aussi, hein, par ailleurs. Bon, aussi, il y a les comptoirs et tout, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que le titre anglais propose plus de l'exploration, tandis que la version française se concentre sur l'expédition, qui est un peu différente en termes sémantiques, puisque ça recouvre pas en tout cas les mêmes sentiments pour moi. Quand on me dit je vais jouer à un jeu d'expédition marchande ou à un jeu d'exploration, je m'attends pas à la même chose. Et peut-être que Bartouf, ça peut servir à un de tes points sur le sentiment d'exploration, je sais pas, mais moi c'est quelque chose que je ressens quand même, et pour moi c'est un des points vraiment forts du jeu, c'est que l'explorateur du titre anglais, moi je ressens ce sentiment d'exploration, et c'est sûrement ce que je préfère dans le jeu. Je sais pas si toi Bartouf, du coup tu veux rebondir là-dessus sur le fait que, tu vois, il y a peut-être un peu un mensonge dans le lore et dans effectivement le fait qu'on connaisse le territoire, mais qu'il arrive quand même à retranscrire ce sentiment.
Et en même temps, moi, le mot expédition ne me déplaît pas non plus, parce que, tu vois, étant donné que on va découvrir au fur et à mesure, mais ça rejoint peut-être l'exploration dont tu parles, c'est-à-dire à chaque fois qu'une nouvelle carte est tirée, on va découvrir qu'est-ce sur quoi on va pouvoir avancer, et donc où notre expédition va pouvoir se mener, aller, et qu'il va falloir se retourner à chaque fois en fonction de la carte qui a été tirée. Du coup, moi, ça, c'est un des points, effectivement, qui me plaît. Qui me plaît d'autant plus que là-dessus, parce que je vois un des défauts qu'on peut trouver au jeu, c'est qu'il serait très calculatoire, parce que ça on l'a pas dit, Julien, mais toutes les cartes vont tomber. On sait à l'avance quelles sont les cartes qui vont tomber. On sait juste pas dans quel ordre elles vont tomber. Donc on pourrait se dire, bah c'est un simple, il suffit de simplement, comment dire, le calculer, et ça devient un jeu quasi abstrait, avec juste un aléatoire sur dans quel ordre ça va sortir. Mais là où le jeu, moi, je le trouve intéressant, c'est que il ajoute quand même une partie qui nous est inconnue, qui est les pouvoirs. Parce qu'on sait qu'on va avancer donc sur différents biomes, que ce soit la terre, le machin. Et puis, il y en a un qu'on va découvrir, et en plus, sur lequel on aura un choix entre deux cartes de pouvoir, et qui sera très forte. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve formidable, c'est qu'en fait, la première fois quand tu joues, c'est que quand tu commences, tu regardes, tu sais, tu tires la première carte, tu fais, bah là, j'avance de deux et tout, et en fait, tu te dis, mais la carte est immense, mais les actions que j'ai, elles sont nulles. Enfin, je peux rien faire, quoi. J'avance de deux prairies, les prairies, c'est forcément quatre, il faut les remplir, enfin, ou trois, mais enfin, et tu te dis, mais jamais je vais sortir de ma petite île centrale, et je vais jamais rien pouvoir faire là-dedans. Et tout à coup, tu découvres tes pouvoirs, et tu te dis, mais putain, ils sont complètement pétés. Comparé aux actions de base, les pouvoirs ont l'air très forts, très violents, et c'est eux qui vont nous permettre de décoller. Et en même temps, on n'a aucune idée de sur lesquels on va tomber. Est-ce que ils vont m'arranger à ce moment-là de la partie quand je vais tomber dessus? Et ça, ouais. Effectivement, je trouve que c'est intéressant. Mais toi, du coup, sur le sentiment d'exploration, Flavien, t'étais parti sur... qu'est-ce que tu entendais par sentiment d'exploration?
En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est ces villages qui sont des points de victoire et tout ça. On s'en fout, c'est vraiment pas intéressant, pareil. Ouais. L'histoire de ça te fait gagner 4 à la fin, c'est des questions, on en avait parlé avec Julien quand on jouait, et il trouvait pas de considération thématique à pourquoi ça te donne 4 à la fin, alors que finalement c'est presque plus important de les faire au début en termes de dynamique de jeu, mais c'est justement parce qu'ils sont moins importants à la fin que les faire, ça te rapporte plus de points. C'est vraiment de l'équilibrage à la con de game design pour valoriser un truc. Enfin, c'est logique en termes de game design, ça a aucun sens thématique, à mon sens, effectivement. Mais donc, au-delà du fait que ça rapporte des points, ce dont on se fout, c'est effectivement la manière dont ça te crée des îlots d'où tu vas pouvoir repartir à la saison prochaine, et où moi j'ai l'impression un peu soit de récits de SF ou des trucs comme ça où effectivement tu te promènes et puis tu découvres des villages ou bien tu les fondes. Moi j'ai plus l'impression de fonder un village que de le découvrir, à vrai dire, dans le jeu. Oui. Mais surtout j'ai le sentiment un peu, tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand t'as Sam qui dit c'est là le lieu le plus loin que j'ai jamais été, Monsieur Frodon. Et tu vois, où tu te dis, bah là, c'est le lieu le plus loin, et tu peux poser bagages, et puis aller un peu plus loin encore à la saison suivante. Et comme ça, par petits bouts, J'ai le sentiment du temps qui passe et de la création un peu de nouvelles bases de départ, de nouveaux points de départ qui vont justement permettre d'aller un peu plus loin. Et c'est là que je trouve vraiment le côté exploratoire sur l'ensemble de la partie. En fait, pas sur le fait que je pose mes cubes, mais vraiment cette création de village qui crée un nouveau point de départ en plus d'être intéressant d'un point de vue stratégique, hein, voilà, pour atteindre justement des points plus loin, les tours et compagnie. On parlera peut-être, mais c'est assez anecdotique, mais voilà, des nouveaux enjeux de scoring. Moi, c'est vraiment l'impression de poser bagage. Et tu vois, cette sédentarisation ponctuelle, parce qu'à un moment, c'est quand même un jeu plutôt nomade, et que ça reste, qui peut poser des problèmes d'ergonomie et tout, mais en tout cas, il y a des choses qui vont rester. C'est un peu comme un jeu de civilisation, tu vois, où tu poses de nouvelles bases comme ça. Et ça, je trouve ça, je trouve que le sentiment là-dedans rejoint beaucoup l'exploration, mais sur le long terme, plus que l'expédition finalement, quoi.
C'est là où tu ressens finalement peut-être une contradiction, c'est que comme on va avoir des cartes, qu'on va tirer les cartes exploration, mais qu'on sait déjà finalement comment est constituée la map entière, tu as moins cette impression, en tout cas par rapport au titre qui est expédition, tu as peut-être moins cette impression, un peu comme tu disais avec Frodon ou Bilbo, etc., de te dire bah c'est l'endroit où, le plus loin où je suis allé, mais là dans le jeu bah tu sais qu'est-ce qu'il y a encore derrière, quoi, et t'as ce côté un peu calcul qui est forcément moins exploration, peut-être plus expédition, en effet, qui vient un petit peu casser finalement ce sentiment de découvrir un nouveau territoire. Et là, je pense en effet, il y a peut-être cette contradiction que tu peux soulever avec avec le mot exploration et cette idée d'avoir déjà la connaissance du royaume, entre guillemets.
Après le mot, on s'en fout, hein, en vrai, hein, c'est juste une traduction d'Ori Games. Ce qui est important, c'est effectivement le sentiment que ça procure. Et moi, ce sentiment-là de poser bagage, il est là. Et ça, c'est ce qui compte, entre guillemets. Après, clairement, ouais, j'aurais préféré plus d'inconnus. Et le fait que tu poses bagage, mais tu sais pas où tu vas aller à la saison suivante. Moi, c'est quelque chose que j'aurais préféré. C'est pas la proposition du jeu, effectivement, qui serait sans doute plus aléatoire et tout. Après, le côté calcul, calcul potentiel, entre guillemets, du fait de... Effectivement, on va avoir ce tirage de cartes qui vont arriver. On sait exactement parce qu'on va tirer toutes ces cartes-là. Ce qui est un peu bizarre en termes de game design dans le cadre où se situe la guilde, sur lequel on pourra revenir après. Mais j'avoue que moi, je suis assez vite énervé contre les jeux qui se prétendent familiaux ou tu sais un peu légers, genre Acropolis, mais qui en fait sont des potentiels calculatoires de zinzin. Je déteste ça. Mais vraiment, je trouve ça affreux. Genre Acropolis, moi, j'ai aucun plaisir à y jouer parce que alors que t'as du hasard et tout dans le tirage de la rivière, mais parce que si je veux commencer à réfléchir à plusieurs étages et tout, là je suis obligé de me mettre dans un mindset un peu abstrait et je n'aime pas ça. Et Acropolis me le favorise vachement. Il y a des jeux comme ça qui me trigger là-dessus et où je me dis putain, j'aime pas ce que tu provoques chez moi et je me force à ne pas réagir comme je voudrais le faire parce que sinon je pourris la partie. Là-dessus la guilde non. Tu vois, et c'est pas juste, je pense, la question des pouvoirs. Je pense que ce que tu disais sur l'aléa du tirage des cartes de l'ordre en fait est déjà assez important parce que cet inconnu se réduit petit à petit, en fait, hein, dans la manche. Mais ce qui fait que j'arrive à y jouer, entre guillemets, à la cool, ce que je préfère comme type de sensation, moi, sur ce genre de jeu-là, et que je trouve que, du coup, en termes d'espace de décision, espace cognitif, il colle, tu vois, à l'espèce de cible qu'il semble vouloir viser. Là où, pour moi, ouais, y a des jeux qui le font pas et où je leur crache dessus pour ça, parce que c'est totalement un coup calico. Alors que là, moi, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, par moment, de se poser un tout petit peu plus longtemps pour justement se dire, ok, là, maintenant, j'approche de la fin de manche. Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui va me rapporter le plus de points au moment X? Mais c'est pas trop envahissant, quoi, je trouve.
Mais est-ce que c'est pas ce sentiment, tu l'as pas parce que t'as fait surtout des parties solo? Et si je pose la question à Bartouf, qui a fait aussi un peu plus quand même de parties à deux, moi j'ai l'impression que quand on arrive sur des maps, qui sont pas les maps débutantes, mais un poil plus compliquées, la position de chaque cube doit vraiment être, enfin, moi c'est le sentiment que j'ai eu, doit vraiment être posée de façon, très précise, pour ne jamais se retrouver à un moment avec une carte expédition qui serait inutile. Et moi, personnellement, j'ai eu un petit peu ce sentiment où je me suis dit, attention, là, va falloir que tu joues tes cartes de façon très précise en jouant sur le hasard de la pioche pour que j'ai le plus de possibilités et de sorties possibles qui me soient positives. Est-ce que toi, Bartouf, du coup, comme t'as fait des parties à deux, donc plus avec cette idée de compétition, Est-ce que tu ressens la même chose que Flavien, ou est-ce que finalement pour toi c'est quand même un jeu assez calculatoire et que c'en est peut-être un plaisir?
Non, je trouve, alors effectivement il y a toujours une partie de calcul qui avance plus ou moins, mais moi aussi comme Flavien je trouve, c'est, enfin je pense comme toi, c'est un jeu d'ouverture, donc t'essayes de faire les meilleures ouvertures en te disant bah, j'espère que ça va bien se passer, mais en même temps t'es bien obligé de faire des paris sur l'avenir, enfin tu vois, en se disant ah bah là. Et quand tu joues à deux, ce qui est intéressant, c'est, et moi c'est la seule interaction que propose le jeu, parce que c'est un duplicate, hein, on joue pas sur la même carte, on a chacun nos cartes, c'est le côté loto. C'est-à-dire que on se retrouve régulièrement à dire, allez, maintenant, je veux de la prairie, de la prairie, de la prairie, de la prairie, on retourne la carte, et puis donc, il y en a un qui crie, il y en a un qui dit, oh non, et tout, c'est nul, encore de la montagne, mais je sais pas quoi en faire, je vais encore rien en faire. L'interaction, pour moi, elle se trouve juste à cet endroit-là, ce truc où, tu sais, avant de tirer la carte, on appelle, chacun appelle en disant, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça serait ma meilleure, c'est ce qui me permettrait de faire exactement ce que je voudrais.
Ok, bah, du coup, tu vois, le plaisir, alors, on pourra reparler de l'interaction après. Même si c'est pour moi un non-sujet entre guillemets, le côté multiplayer solitaire, on pourra y revenir vite fait, mais c'est pas essentiel. Il y a une interaction sur les objectifs aussi qu'on peut aller chercher. Il y en a trois. Ça fait 15 points sur les 200, sur les 150 que tu marques dans la partie. Ça reste relativement anecdotique. Ça peut faire une victoire ou une défaite, mais c'est pas le cœur. L'interaction, enfin, c'est vraiment le seul élément d'interaction. T'as l'impression qu'ils en ont mis un parce qu'on en met comme ça, voilà, et que ça peut t'orienter un peu dans tes choix. Mais pour moi, ça reste un élément assez faible de game design, ces espèces d'objectifs. Mais tu vois, la différence, c'est que, bah, moi, ce côté loto que j'ai dans un Lucky Box, enfin, un Super Mega Lucky Box, que j'ai dans un Extation, qui est aussi de Dunstan et de Gilbert, je crois.
Non, je crois que c'est Dunstan
sur Extation, ouais. Bah, là, pour le coup, tu vois, ce que tu dis, ce qui se passe autour d'une table, et, bah, je l'ai jamais eu, y compris dans mes parties en physique où, en fait, on se faisait un peu chier. Tu vois, il y a un côté où, bon, bah, d'accord, ok, c'est ça. Bon, bah, d'accord, ok, c'est ça. On n'a jamais arrivé à ce truc, à vocaliser l'espoir d'un tirage. Tu vois, je comprends que toi, du coup, tes parties, en termes d'émotion, sont plus fortes que les miennes, où nous, bon, bah, on regarde le tirage. Et il y a juste les moments où, ah, là, on va avoir les cartes spéciales. Et là, il y a un peu d'excitation. Mais sinon, tout le reste du temps, c'est d'accord. D'accord. Et où vraiment, du coup, tu te fais un peu chier, quoi.
On peut revenir justement sur ces cartes spéciales. Tu l'as un petit peu évoqué, Bartouf, au début. C'est un élément hyper important sur lequel il faut qu'on parle plus longuement. Il y a une particularité sur ces cartes, c'est qu'elles créent aussi, finalement, la différence entre les jeux, parce que cette carte que l'on met donc dans la pioche, qui est une pioche d'expédition, qui est une pioche commune, hein, on va toujours faire, par exemple, si on met les cases haut, les deux joueurs doivent faire les cases haut. Mais on ne met pas une carte très forte de l'expédition âge 1, on met une carte qui s'appelle âge 1, et chaque joueur va avoir sa propre carte personnelle, sa carte expédition, qui va avoir un type de biome différent. C'est là où il y a un peu ce sel, finalement, qui arrive dans le jeu, et c'est à ce moment-là qu'en effet que les joueurs vont pouvoir partir sur des stratégies qui vont être très très différentes. D'ailleurs, on pioche deux cartes et on n'en choisit qu'une seule, ce qui est très très important, parce qu'en effet, selon quand on rajoute les objectifs à faire, etc., la priorité et tout, il faut forcément avoir un peu plus de choix qu'une seule carte, donc ça, je pense que c'est quand même un point important.
Pour l'âge 1, c'est moins essentiel. Par contre, pour les âges suivants, tu peux essayer de te créer des synergies, effectivement, avec les cartes précédentes. Ouais. Parce que du coup, l'âge 1, cette carte âge 1 que tu cites, d'ailleurs, je trouve que pour le coup, en termes d'ergonomie, c'est bien trouvé, parce que ça permet de pas avoir des trucs à la con à faire ou quoi. T'as tes cartes à toi devant toi, et puis à un moment, le truc âge 1, bah, t'as tes cartes devant toi, et bah, tu choisis laquelle tu vas... Enfin, tu choisis, tu l'actives, et puis voilà. Du coup, cette carte âge 1, elle va être tirée la première fois, ce qui va nous permettre de choisir une des cartes âge 1, sachant que du coup, les cartes 1, 2, 3, les effets, ils sont ciblés aussi sur les époques ou pas, ça, je me rappelle plus.
Non.
Non, c'est une pioche commune. Ok, il n'y a pas d'espèce de crescendo.
Non, c'est une pioche basique.
Ce que pas grave, hein, c'est pas une critique là pour le coup de ma part, c'était plus une question factuelle.
Non, parce que c'est la combinaison des éléments qui vont créer vraiment la puissance.
Tu tires la truc 1, tu choisis celle parmi deux, tu la mets de côté, tu l'appliques tout de suite. Et cette carte où il y a écrit H1, tu vas la retirer à l'H2, à l'H3 et à l'H4. Et du coup, le premier pouvoir que tu vas avoir, tu vas l'appliquer 4 fois. Le deuxième, tu vas l'appliquer 3 fois, etc. Et ce que tu disais, Bartouf, c'est game changer, quoi. Et ça crée, tu vois, tu parles de duplicate. C'est vrai jusqu'en fait à cette première carte, quoi, que tu tires, puisque après, tu n'auras pas exactement le même tirage ou les mêmes actions parmi tout le monde, quoi. Parce que tout le monde va avoir l'âge 1, mais ça va provoquer des effets différents, quoi. Et effectivement, ils sont très forts. Et d'ailleurs, sur BGG, j'ai regardé un peu pour voir les arguments négatifs. En gros, les arguments négatifs sur BGG sont nuls, comme toujours. Hein, c'est oui, il y a trop de hasard, ou bien c'est déséquilibré. Bah ouais, mais en fait, je sais pas si t'as ressenti ça, mais moi, alors peut-être, mais franchement, enfin moi je m'en contrefous, parce qu'en fait, effectivement, t'es jaloux de la carte de l'autre, mais l'autre est aussi jaloux de ta carte, et tout le monde se dit, putain, évidemment que sa carte elle est claquée, et ça c'est cool. Enfin, moi c'est ce que, tu vois, c'est le deuxième point vraiment que je trouve vraiment bon, c'est cette asymétrie progressive couplée à des pouvoirs qui vraiment sont game changer, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que à chaque fois tu regardes celui de l'autre, tu fais, mais le tien, il est trop. Ça triche, tu vois, t'es vraiment en train de dire, mais c'est complètement pété comme truc, et l'autre il te regarde, il fait, tu rigoles, mais moi si j'avais le tien, j'aurais déjà gagné. Donc effectivement, on se renvoie la balle là-dessus, et ils sont suffisamment forts pour que tout le monde soit content, en fait, et qu'on ait l'impression justement de changer le jeu à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que ça n'a pas tendance à réduire un petit peu cette impression de bingo dont tu parlais, du fait que finalement à l'âge 1 on a une carte qui est vraiment game changer, et du coup, contrairement à un bingo basique où c'est des chiffres, chaque chiffre a une puissance identique avec un pourcentage identique de tombée. Il y a rien de différent d'un jeu à un autre sur une partie de bingo. Mais là, clairement, finalement, on va se retrouver avec une asymétrie qui est tellement radicale que cette impression de bingo, est-ce que tu arrives quand même encore à la garder tout au long de la partie?
Eh ben oui, parce qu'en fait, tu sais exactement ce qui se passerait si c'était l'âge 1. Enfin, que tu vois, une fois qu'il est passé. Non, oui, par contre, effectivement, on espère toujours, dans le bingo comme ça, je sais que nous, on espère toujours que les pouvoirs arrivent tout de suite, parce que c'est autour d'eux que notre stratégie va se construire. Et donc, quand dans une partie, c'est à juste la dernière carte, c'est celle du pouvoir, bah là, on est tous là en train de se, tu vois... Enfin, on est en train de se ronger les ongles, on est en train de se dire, ah là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce pouvoir? Est-ce qu'il va me permettre de mettre un village quelque part et d'avancer? Et justement, il y a une espèce de tension là-dessus en se disant, oh là là, ça serait bien de savoir c'est quoi nos pouvoirs à l'avance. Mais justement, tu vois, t'as une espèce d'excitation et d'attente en se disant, ah, faudrait que ça arrive vite et que je sache, ou maintenant que je sais, bah je veux qu'il arrive maintenant pour ensuite utiliser tel autre pour voilà, à chaque fois en fait tu t'imagines, tu fais ton scénario où tu t'imagines si tout tombe dans l'ordre, ça va se passer comme ça et je vais arriver de là à là et ça va tout va bien se passer.
C'est comme Colt Express, tu vois.
C'est ça.
C'est la même chose.
et seulement en fait après bah tu tires les cartes au hasard et là t'es là, tu pleures tout du long en faisant mais non, mais c'est pas possible. Enfin voilà. T'as un scénario rêvé en tête et puis le réel te tombe dessus et tu ah, oh, rien ne va. Mais en même temps, bah il faut tu fais pour le coup contre mauvaise fortune bon cœur et t'essayes de trouver une solution quoi.
Ouais, parce que si tu tirais les trucs dans le même ordre, ce serait encore plus chiant quoi. Enfin, ce serait affreux. Justement, là c'est l'aspect inconnu, l'aspect aléa du tirage qui fait que. Et pareil, les cartes comme ça asymétriques, c'est les mêmes pour toutes les maps. Hein. Il y a pas des trucs parce qu'à un moment j'en ai une qui était très bien pour la map en question.
Non, il y en a pas. C'est complètement au hasard. Et justement, oui, effectivement, des fois, tu peux regarder en faisant, oh, mais c'est une carte où il y a plein d'eau et j'ai un pouvoir par rapport à l'eau, mais c'est trop fort. Enfin.
Ouais, là, moi, sur la dernière map, j'en ai une qui me disait, tu vas en ligne droite autant que tu veux, tant que c'est pas de l'eau ou je sais plus quoi.
Oui.
Donc j'étais là, je disais, ah bah ok, let's go. Je vais à l'autre bout de la map et c'est très bien. Tu vois, je suis quand même assez enthousiaste là-dessus et le problème après derrière, c'est que même si je trouve que vraiment, en plus, je trouve que vraiment elles ont de la personnalité, vraiment elles créent de la symétrie. Bah ça arrive pas à faire décoller mon enthousiasme, tu vois, au cours de la partie en fait, parce que je trouve ça trop plan-plan, le côté mais c'est parce que aussi j'ai pas l'enthousiasme que tu as quand tu joues au bingo, enfin quand ce côté-là, cette interaction vocale que tu, c'est des moments en général où tu passes un peu plus de temps parce que du coup stratégiquement tu réfléchis un peu plus à, alors là si je fais si ça c'est bien, et puis derrière je pourrais faire si ça. Si tu veux, je vois théoriquement leur intérêt, je vois concrètement dans la pratique ce qu'elles apportent, mais ça arrive pas à éveiller suffisamment d'émotions chez moi quoi, et du coup je me retrouve quand même sur un truc où bon bah on tire une carte, ok, bon bah je pose mes petits cubes et etc, et tu vois c'est principalement ça qui soulève mon indifférence et du coup le rejet que j'ai vis-à-vis du jeu, où je me dis bon bah en fait c'est un jeu useless quoi, enfin c'est encore un jeu un peu similaire à plein d'autres et où en plus vraiment en termes de mécanique il est vraiment pas original quoi, et je me dis bon bah ok, soit, et du coup je me fais chier et je me dis bon bah encore un jeu qui est. Et on pourra peut-être parler d'édition, mais en général, moi, les problèmes d'édition viennent quand j'ai un problème avec le jeu. Parce que sinon, si le jeu est suffisamment bon, je peux lui pardonner ses problèmes d'édition. Alors qu'à l'inverse, quand un jeu me pose problème, bah derrière, je dis « et en plus, c'est un produit de merde, tu vois ». Et du coup, ça enfonce le truc.
Est-ce que ça veut dire que tu aurais préféré avoir plus de cartes spécifiques à chaque joueur pour justement avoir un peu plus de choix, un peu plus de... de chaos.
Je pense pas, je pense que le problème il vient du fond du jeu pour moi et que tu vois, t'aurais beau rajouter de la variété, machin, des trucs, en fait le système et le cœur de jeu resteraient les mêmes, même si ça peut se jouer des fois à pas grand chose, tu vois. Et je parlais de l'originalité parce que finalement c'est vrai qu'il était souvent comparé, ouais, voilà, dans les arguments négatifs de BGG, c'est ouais, c'est juste un roll and write. Alors moi je suis assez d'accord avec ça. En fait le roll and write n'est pas un genre de jeu ni rien, c'est une façon de jouer, enfin c'est un support matériel. Et moi je suis assez d'accord qu'effectivement tu y retrouves beaucoup de sentiments de beaucoup de roll ou flip and write, c'est-à-dire le fait que chacun joue un peu dans son coin, le duplicate dont tu parlais Bartouf, ce qui n'est pas un défaut en soi, en tout cas pas pour moi, parce qu'en fait moi s'il y a par exemple For a Crown, plein d'interactions entre joueurs, ça n'en fait pas un bon jeu pour autant pour moi. Inversement, des jeux où tu joues en solo, vraiment solo ou solo mais à plusieurs, aucun souci aussi. Du coup je peux m'attarder sur les interactions que j'ai avec le système, ça n'est pas un critère de qualité, c'est plus un critère de préférence personnelle, tu vois, ça soit, mais... Et mine de rien, je pense que ça joue quand même sur mon plaisir parce que tu vois, on a. Alors, attends, je me perds un petit peu. D'abord, donc ce système de cartes, je disais que c'est pas original, c'est parce que dans pas mal de flip and write, il y a ce système, notamment Next Station qui est sorti la même année pour le coup que la guilde, donc de Dunstan, où vraiment on tire des cartes et on fait un truc, sachant que je cite un jeu de Dunstan, mais par exemple Silver and Gold ou Explorers faisait ça aussi de Phil Walker Harding. Et dans Next Station, il se place un petit peu plus dans la veine de Silver and Gold, par exemple. Parce que dans Silver and Gold, il y avait une carte de Poliomino que tu sortais pas. Tu savais pas laquelle. Idem pour Explorers, je crois, sauf que c'est des trucs doubles, bref. Donc il y avait un peu plus d'interaction de ce point de vue-là, qui peut aussi se comparer, hein, à la guilde. Explorers un petit peu sur certains points, en tout cas petite salade de points et tout, tu vas essayer d'explorer un peu comme le dit le titre aussi. Et dans Next Station, ils poussaient ça beaucoup plus loin, je trouve. Et moi je sais que c'est un, tu vois, le côté aléatoire et inconnu me correspondait beaucoup plus dans Next Station parce que tu savais ce qui sortirait forcément, donc les cartes roses qui ont différentes formes qui te permettent de relier des stations, blablabla. Donc tu savais qu'il y aurait au moins ces 5 cartes là qui sortent. Mais sauf qu'il y a 10 cartes dans le deck, et que du coup, le tour, il va entre 5 et 10... Enfin, la manche, elle va entre 5 et 10 tours de jeu. Avec, en plus, ben, l'aléa de l'ordre de sortie. Mais du coup, c'est un jeu beaucoup moins stratégique, je dirais, que la guilde, tu vois, un peu moins dans cette vibe-là. Du coup, enfin, ce côté durée de manche aléatoire me correspond beaucoup plus et provoque chez moi beaucoup plus de choses avec d'autres éléments, quoi. C'est pas suffisant pour dire que je préfère la Next Nation. Mais là où la guilde, ben, c'est quand même un peu monotone, du coup, en dehors de ses pouvoirs spéciaux. Et du coup, en plus, ce système de résolution par carte, ben, même si c'est un système que j'aime bien, dans l'ensemble, plus que tu vois lancer 2 dés en choisir un. En fait, du coup, j'ai déjà vécu plus ou moins ce qu'il avait à offrir dans d'autres jeux. Et en plus, dans des équilibres qui me convenaient plus, quoi.
Bartouf, t'as quelque chose à dire par rapport à ça?
Oui, non, mais justement, moi, la seule chose, enfin, justement, ce que j'aime dans celui-là, c'est ce côté résolu, qui est, effectivement, toutes les cartes vont tomber. Et ça, moi, ça me, enfin, je sais pas comment te dire, ça me donne une espèce de vision sur l'avenir, tout en ayant, comme on l'a dit, par les pouvoirs, une forme d'inconnu, mais qui me dérange pas du tout. Justement, c'est ça, moi, que je trouve qui est un peu nouveau. C'est pas ce truc du ce qui va changer vos parties, ça sera qu'est-ce qui ne sera pas joué, mais ce qui va changer vos parties, c'est sur quel pouvoir vous allez tomber, parce que de toute façon, par contre, ça sera toujours la même chose. Et du coup, moi, sur cet équilibre-là, ça me pose pas de problème. Et surtout, ce que je trouve, ce que j'aime, moi, la différence, justement, enfin, c'est pas la différence, parce que j'aime aussi les Run and Write, mais ce qui me semble proposer de nouveau, c'est effectivement le sentiment de vague. C'est-à-dire que là, ça serait un flip and write où tu, si on devait le remettre sur papier, où il faudrait que tu gommes en disant, tous les endroits où je suis passé, clac 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 clac, ça disparaît parce que j'ai pas posé de village ou que, enfin, et les petits cubes qu'on enlève comme on se racontait, moi c'est un sentiment que j'aime beaucoup dans ce jeu, qui est la fin d'une manche. Bon ben, on enlève tout, tu vois, t'as l'impression d'être allé partout et d'être super bien. T'enlèves tout et tu te dis, oh là là, il me reste que ça, j'ai que ça pour repartir. Il va falloir que je refasse ce chemin que j'ai déjà fait parce qu'il est plus visible et qu'il faut que je refasse la connexion pour cet âge-là. Et cette espèce de ressac, tu vois, où t'avances un peu et hop, ça se recule, mais t'as quand même avancé. Tu vois, la mer a quand même un petit peu avancé. Et elle revient, et tu vois, là, c'est la marée qui monte. Eh ben, moi, ça, c'est un sentiment que j'aime beaucoup.
Ah, ou la montée des glaces aussi, tu vois. Des trucs qui gèlent et qui laissent juste des petits îlots face visible et qui après redescendent. Ouais, je comprends, et je comprends aussi matériellement, tu vois, le plaisir de retirer les cubes en termes de mise en scène. Après, je sais pas, parce que tu vois, pour le coup, On peut peut-être parler du coût de l'édition. C'est vrai que moi, je parle de Roll and Write à 40 balles ou 45 balles quand il est sorti, du coup, en termes de... En général, pareil, tu vois, le critère de prix, c'est quelque chose dont je me fous parce que ça concerne pas l'œuvre. Par contre, quand j'ai des choses à reprocher à l'œuvre, derrière, je me pose ce genre de questions. Et je me dis, ça aurait pu être un truc à 20 balles ou 25 balles. Et je pense que ça procurerait à peu près les mêmes émotions. Parce que, tu vois, tu parles de gommer. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des trucs and write, des jeux à cocher, bah en fait, c'est sur trucs plastifiés. Donc en fait, t'aurais effacé les croix. Et admettons que tu fasses... Alors, ce serait chiant. Hein. Ça, je le reconnais sans souci. C'est-à-dire que là, c'est chiant parce qu'il faut retirer tes cubes et juste laisser tes villages. Si t'avais un truc plastifié, faudrait effacer tes croix et laisser tes ronds. Admettons que les ronds, ce soient des villages, tu vois. Ce serait relou.
Oui, tu tromperais, tu remettrais le village à un autre endroit, etc. Enfin, ça serait un enfer.
Alors, ce qui arrive aussi avec la guilde, pour le coup, parce que, mais on en reparlera si vous voulez au niveau de la manipulation et du ressenti, de l'impact que ça peut avoir sur le ressenti. Mais par contre, en termes de sentiment de jeu, enfin, sentiment, pas de, ouais, de jeu, je sais pas, mais effacer, tu vois, ça marcherait aussi, je pense.
Oui.
Tu vois, de la même manière que retirer les cubes.
Oui.
Je pense que le sentiment de disparition, pourrait demeurer.
Non, je suis d'accord.
Après, le volume du cube apporte aussi, d'une certaine façon, une forme de force, dans le sens où je trouve que ça, c'est plus parlant finalement qu'un trait. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a une vue par le haut, une vue aérienne, et ces petits cubes, moi j'ai toujours l'impression que ça fait un peu comme un chemin qu'on verrait sur une carte au trésor, tu sais, les petits traits qu'on voit comme ça. Et je trouve qu'en effet l'objet cube donne un certain appui en fait sur le fait d'explorer. Et ce que tu disais, Flavien, c'est que bah c'est galère d'avancer, on arrive à la fin de notre monde, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc je trouve que en termes de lisibilité et de storytelling, c'est quelque chose qui est plutôt qui marche bien, quoi. Après, en effet, sur internet, c'est souvent des comparatifs qui ont été faits sur la problématique que apporte le cube avec autant de manipulation. Et en effet, ça, c'est là où il faut trouver un équilibre entre on veut raconter quelque chose avec du matériel, et là je trouve que c'est réussi. Et en même temps, c'est un jeu de société, et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui tremble, quelqu'un a un petit coup sur la table, etc., et la partie est annulée, quoi. Donc c'est vrai que l'équilibre est assez difficile à trouver là-dessus.
Bah, là où moi je vais rejoindre complètement Flavien, c'est qu'en plus, le problème, c'est que l'édition est clairement aux fraises, enfin je veux dire... Oh là là. Par exemple, donc on parle là des petits villages et des cubes, les petits villages sont petits... voire pas plus petit que les cubes, mais pas loin. Et donc effectivement, quand t'enlèves tes cubes, en fait, ce que t'aurais voulu, c'est que ce soit un cylindre, le village, et que, en fait, moi j'en ai rien à faire que ça ressemble à un petit village, et ça me dérange pas que ce soit assez abstrait. J'aurais voulu que ce soit un cylindre qui dépasse, et du coup, eh ben, tu t'enlèves tes petits cubes, et t'aurais les cylindres qui dépassent un peu, et tu les verrais mieux, et tu t'aurais pas peur de les prendre au passage et de te dire « Ah mince, et c'était où, et c'était sur quelle case, et je sais plus, et ça y est, c'est fini. » Et il y a plein de soucis. On n'a pas encore parlé jusque-là des couleurs qui ont été choisies, qui sont toutes très très beige. Voilà, c'est marronasse, beige.
Ouais, alors pour l'anecdote, sur BGI, il y a un module daltonien où du coup ça renforce les contrastes. Ouais. Bah ce truc, on peut pas le patcher en fait sur le vrai jeu. et c'est dommage quoi, mais parce que on a joué avec Peter et qui est atteint daltonisme, et il disait ouais, bah, moi en fait et même visuellement en fait la différence entre montagnes, plaines qui ont des collines et puis désert. Ouais. Et franchement, moi je vois rien quoi et je sais pas où je vais. Et en physique en fait, ça accentue ça parce que les cubes sont trop gros par rapport à la taille des cases et tu vois plus la couleur des cases en dessous, donc tu sais pas si tu peux construire un village ou pas. Et pareil, quand tu mets aussi un comptoir commercial qui a un autre élément de scoring où tu essaies de faire des connexions, bah pareil, tu te dis merde, c'est quoi? Enfin, il y a plein de problèmes de lisibilité que moi j'ai rencontré aussi dans mes parties. Au-delà du côté, ce que les Américains appellent fiddly, tu sais, c'est effectivement que bah un mauvais coup et tout dégage. Ce qui arrive moins avec du tracé sur des feuilles plastifiées quoi. Même si sur les feuilles plastifiées, bah tu passes ta manche, ça efface tout aussi, hein, c'est un autre problème. Mais ouais, c'est vrai que l'édition, tu vois, au-delà de essayer de vendre un jeu dont les sensations sont plus ou moins celles d'un Explorers, etc., en doublant le prix. Et pourtant, moi aussi, j'aime bien l'utilisation des cubes. Là où, des fois, dans des trucs, ils nous mettent des figurines, tu vois, là, ils auraient pu mettre des petits explorateurs et tout. Non, ils se sont dit, ok, des cubes, c'est sobre. Tu vois, dans les Wargames ou dans les Warto, moi, j'aime bien les petits cubes, là, dans les 1812 et tout. Pour moi, c'est extrêmement signifiant et ça me permet de plus me représenter quelque chose quand je... Et en plus, ça se marie très bien avec l'impression de QG, de carte de QG, tu vois. Alors là, on n'est pas tellement là-dedans dans la guilde. Mais pour moi, c'est un bon mariage. Et là, moi, je trouve que l'utilisation des cubes, le matériau et tout, c'est très cool. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, sur les couleurs, c'est dommage parce que pour le coup, moi qui adore les cartes de jeux de société, les maps, bah, je les trouve très belles. Je trouve que, enfin, ça me rappelle vraiment les cartes des livres de jeux de rôle ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup la manière dont c'est représenté, les petits nuages autour et tout. Enfin, il y a vraiment un petit charme de la vieille carte qui se marie bien au matériel du bois, mais qui, effectivement, bah, derrière, en termes de sentiment, en fait, d'ergonomie et donc derrière de ressenti en jeu, bah, t'es tout le temps confronté à des petits soucis, même quand t'es pas atteint de daltonisme, mais où tu te dis putain, qu'est-ce que c'est que ces choix, c'est complètement con. Après, si le jeu était incroyable, et je m'en foutrais. Enfin, je m'en foutrais pas, tu vois, ça m'énerverait quand même, mais le sentiment de jeu dépasserait tout
mais
ça.
Oui, si tu...
Là, c'est plus plein de petits parasites qui me disent, déjà ton jeu il est pas terrible, en plus tu me fais chier. Tu vois, enfin, et du coup, des problèmes qu'on a un peu moins sur BGA, quoi. Mais bon, c'est dommage, quoi, que ce soit. Que moi, j'ai plus envie d'y jouer sur BGA que sur table, quoi. C'est un peu triste, quoi.
Ben oui, c'est ça. Et alors, l'autre aussi, incohérence, alors là, c'est entre les règles et le matériel, qui est qu'il faut que, tu sais, tes points, c'est des pièces.
Ouais.
Et il faudrait que tu les gardes face cachée. Alors que tu passes ton temps à faire la monnaie. Alors nous, en fait, on s'est regardé, on s'est fait, mais est-ce que je regarde ce que t'es en train de faire? Et je suis en train de me dire, oh là là, t'es à 150, donc là, ouais, il faut que je joue différemment. En fait, non, tu joues toujours en fonction de ce qui tombe et de ce que tu veux faire. Donc en fait, on ne cache jamais le score de l'un ou de l'autre.
Ouais.
De toute façon, tu regardes pas ce que fait l'autre. T'es en train de faire au mieux de ton côté. Vu qu'on n'a pas d'interaction, je peux pas me dire tout à coup, oh là là, elle est à 70, va falloir que je lui mette des bâtons dans les roues. Enfin, tu peux pas, en fait, y a pas de raison. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'incohérences comme ça. Autant, moi, tu vois, alors j'entends ce que tu dis, quand tu dis aussi, ça c'est un truc qui se fait aujourd'hui dans le game design d'aujourd'hui, un trait d'époque, qui sont les objectifs où si on arrive les premiers, il y a quelque chose, mais c'est pas non plus suffisamment de points pour que ça renverse complètement la partie. Moi, je les trouve intéressants, ces objectifs, dans le sens où, quand tu commences à jouer, ça te donne un objectif, c'est-à-dire que tu sais où tu vas. Tu peux, tu vois, t'en as trois devant toi, t'as une direction, et ça t'aide. Et ça, je trouve ça intéressant.
Ouais, je suis assez d'accord aussi là-dessus. Hein.
Mais je suis d'accord avec toi que ils sont pas fous comme objectif. Je les trouve là, à la différence des pouvoirs, très plan-plan. Très prétexte, et puis ils sont juste adaptés à chaque map, parce que du coup ils sont pas interchangeables, ils sont bien associés à chaque map. Ils font ressortir la particularité d'une map, mais c'est pas... Là, ça manque de folie et d'un truc où tu te dirais « Ah là là, trop fort !» Là-dessus aussi, c'est renversant. Et effectivement, tous les systèmes de scoring dont t'as parlé, c'est des traits d'époque, et là, tu te dis « Bah, elle est où l'inventivité ?» Là, je suis d'accord avec toi, là, c'est d'une faiblesse. Enfin, c'est moyen, comme tu disais, c'est mou. Bah, cette partie-là, effectivement... Tout le monde fait ça, quoi. T'as l'impression que c'est sorti du parfait petit manuel du comment sortir, éditer et sortir un jeu aujourd'hui et le designer. Et c'est triste, quoi.
Ouais, du game design pareil, quoi, en fait,
ouais.
Presque, hein, où vraiment, tu dis à une IA, dis-moi un jeu contemporain, il va te mettre des objectifs communs, il va te mettre éventuellement des objectifs perso, là, il y en a pas, mais ça pourrait. Il y a des trucs, il faut que t'atteignes ce point-là.
Il y en a pas, on pourrait quand même dire qu'il y en a, parce que sur la map, du coup, on a des cases qui sont des cases ruines. Ça aussi, on peut un peu en parler. C'est donc des bateaux souvent ou des ruines dans l'eau. Et quand on passe dessus, on a un tas de cartes qui s'appellent des cartes trésors. Et on pioche au pif ce qu'il y a dedans. Et typiquement, le genre de carte qu'on peut avoir, c'est vous gagnez un point de victoire, donc enfin une pièce, enfin un point de victoire par ville dans les prairies, par exemple. Donc là, on se retrouve encore, et c'est caché, donc on se retrouve encore dans l'idée de se dire du nouveau scoring, et maintenant, bah, c'est une quête personnelle, secrète en plus, qui n'apporte au final pas grand-chose à mon sens. J'ai l'impression que, ouais, en effet, ils ont coché toutes les cases possibles et inimaginables pour pouvoir rentrer là-dessus. Alors que, en effet, il y a un petit problème sur les cases O, c'est que les cases O représentent quand même une grosse partie de la carte. Sur la première carte, ça doit être pas loin de la moitié du territoire, un petit peu moins, mais pas loin. Et faut pas qu'on s'ennuie à ce moment-là, parce que, il faut réussir à faire son rebond sur le nouveau continent, ce qui est quelque chose de pas aisé. Donc il faut donner, des petites distractions sur le passage. Mais c'est là où ça manque peut-être un peu de radicalité dans le jeu, quoi. Il faudrait peut-être, en effet, plus souffrir dans l'eau, ou que les cases O soient moins importantes, ou qu'on ait plus de cartes qui permettent de naviguer avec des interactions plus intéressantes à faire à l'intérieur de l'eau, peut-être une domination ou ce genre de choses qu'on pouvait voir. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, Artouf, des cartes trésors, du coup?
Oh là là, ben, je suis comme vous, moi je comprends pas, ça, ouais. Ça c'est nul. Enfin, en fait, tu sais, justement, ces mini objectifs dont tu parles, bah ben, en réalité, tu t'en fiches. En fait, t'essayes toujours d'aller plus loin, de faire d'autres villages, d'aller rejoindre un autre côté. Tu te dis, bah c'est bon, j'ai visité tout le nord. Maintenant, je vais aller à l'est ou je vais aller à l'ouest ou au sud. Enfin, j'en ai absolument rien à faire. Elle serait pas là, ça ne me changerait rien. Alors si, enfin, tu vois, t'as une petite excitation sur qu'est-ce qui va tomber, mais là aussi. Effectivement, aucune imagination.
Ça permet de replacer un cube et que c'est le cube qui te manquait. Ouais, ça c'est cool. Ça. C'est la plus cool, je trouve, c'est le petit cube.
Mais tu vois, ça manque d'imagination. Enfin, bah ouais. C'est ce que tout le monde fait en ce moment et cet endroit-là. Et moi, heureusement, je trouve suffisamment de plaisir à y par ailleurs. Mais cette partie-là, effectivement, tu parlais aussi, Flavien, et je crois que ça c'est quelque chose d'important qu'il faut le dire. Le scoring, en vrai, j'en ai rien à faire. Je suis juste. Tu vois, à la fin, on est juste, on compare nos scores, mais je suis juste content de regarder en disant, ah, putain, t'as vu où est-ce que je suis allé moi dans la carte? Et ce que j'aime, c'est aller regarder la carte de l'autre et dire, ah, toi, t'as exploré par là, c'est là que t'as mis des villages et machin. Et c'est là qu'ils ont complètement raté, c'est, ils ont décidé de mettre un système de points et tout ce qui va autour de ces points. Et là, de ne pas aller plus loin dans un game design qui serait effectivement, comme tu dis, Julien, plus radical.
Ah, ça pourrait être la course aux quatre tours, tu vois.
C'est ça.
Ou du coup, ça favorise l'exploration. Et que la première à atteindre les 4 tours, bah, il a gagné. Basta.
Ouais.
Et plutôt que ça, effectivement, ça s'encombre de plein de game design à la con, de manière de salade de points qui sont déjà vus. Les objectifs communs, t'as l'impression que c'est histoire que pour contenter les personnes qui vont leur dire « Oui, c'est un multiplayer solitaire », ils peuvent répondre « Ah non, on a mis des objectifs communs, mais ta gueule, en fait, si t'as pas assez confiance dans ton jeu, voilà, enfin, un moment... Et c'est vraiment une réponse extrêmement fainéante à ce genre de choses. Les cartes trésors, effectivement, elles sont toutes enfin extrêmement fainéantes aussi. Les pierres, c'est celles qui te donnent 2 points de victoire. T'es là, tu dis, les gars, quoi, c'est pas possible. En plus, pour le coup, ça alimente les gens qui râlent sur le hasard, qui disent « Ah oui, bah moi, j'ai tiré un truc. » Bon, c'est des remarques un peu couennes, hein, pour le coup, moi, je ne souscris pas à ça, mais qui disent « Ah oui, bah moi, j'ai tiré la carte un point par village tout à la fin et je pouvais pas le savoir. Du coup, ça m'a donné 2 points alors que lui, il l'a tiré au début et tu vois, ça a pu orienter son jeu. » Bon, pff, encore une fois, moi, ça, c'est des remarques à la con, je pense, parce que c'est tellement anodin comme carte que c'est pas ça qui va, c'est du détail, quoi.
Mais c'était un game design à la con aussi, donc au final c'est le sentiment logique à ce genre de création, quoi. Ça n'apporte strictement rien, donc forcément que ça crée de la frustration.
En fait, c'est un jeu sans finalité, tu vois. Il y a pas la finalité, effectivement, de la comparaison du score. Il y a pas la finalité de se dire, ah bah là j'ai fait les objectifs. Tu sais, à la limite, le côté course sur les objectifs, c'est le seul truc intéressant, parce qu'en fait tout le jeu pourrait être des courses, et en fait il y a que ça comme course, alors qu'en fait ça devrait être une course entre différents pays, tu vois, la course à l'espace ou que sais-je. Enfin là, c'est pas l'espace, mais tu vois, ça collerait plus, parce que là, effectivement, la finalité de chacun des ingrédients de la salade, pff, il fait souffler, et t'es là, tu te dis, bah tout est nul, c'est pas ça qui est intéressant, tu vois. Toi, Bartouf, le plaisir, tu le trouves effectivement à la fin, dans la comparaison d'où t'as placé tes villages et de comment t'as exploré un même territoire. Et du coup, moi j'aime bien l'attention, tu vois, dans les jeux, parce que là, du coup, effectivement, moi je joue de manière un peu automatique et monotone, et j'ai pas l'attention que j'attende un jeu, que ce soit multiplayer solitaire ou pas, parce que le système me propose pas assez de tension, et bah les adversaires non plus, en fait, quoi.
Est-ce que c'est pas finalement plutôt un jeu, enfin moi je l'ai surtout joué en solo, et c'est là en fait où je te rejoins, Flavien, c'est que c'est un jeu dans lequel j'ai l'impression que je prends un certain plaisir, comme je l'avais dans Next Station to London, de faire un peu ce que j'ai envie sans la pression de forcément gagner à travers un scoring avec un adversaire qui ferait X points, il faut que je fasse X points plus 1 pour gagner, mais plutôt l'idée de se dire, eh ben, on nous donne un objectif dans la partie solo, où on va nous dire, il faut faire, je crois qu'il y a différents niveaux de difficulté, mais il faut faire 90 points.
Il faut faire les 3 objectifs, de toute façon.
Il faut faire les 3 objectifs, ce qui est intéressant, parce qu'en effet, là, ça donne du poids à cette course, chose que on peut éviter dans une partie à 2, 3 ou autre. On peut très bien, je pense que c'est plus difficile, mais on peut très bien ne faire aucun objectif et quand même rester dans la course. Là, on nous oblige à les faire, donc je trouve c'est une autre façon d'expliquer l'histoire du jeu, en fait. Et donc on a un score minimal à faire pour pouvoir gagner. D'une certaine façon, j'ai l'impression que quand on joue en facile, mais enfin ça m'est arrivé pas mal de fois, où j'étais assez large par rapport au score facile, mais du coup je prenais un plaisir à me dire, eh ben, je vais aller poser ma petite maison dans ce petit continent que je pensais pas réussir au tout début de la partie, parce que je me suis donné suffisamment de points pour savoir le faire. et je vais pas perdre pour autant la partie. Et je trouve que dans la proposition solo, on retrouve un petit peu plus ce sentiment agréable qui est l'exploration, sans avoir la contrainte finalement de devoir absolument calculer ses points et puis essayer d'optimiser tout dans une course avec une autre personne qui est finalement assez mal mise en scène.
Ouais, je suis pas forcément d'accord parce que du coup, en fait, ça t'apporte la tension du score à atteindre. Donc tu vois, une tension que moi j'ai pas forcément en multi. Par contre, ça retire ce que Bartouf disait, la comparaison en fait du voyage. Ce qui est le plus intéressant du jeu, c'est ce que t'as fait, où t'as posé tes cubes, où t'as posé tes villages. La finalité du score en fait a que peu d'intérêt. Et du coup, en solo, effectivement, t'as cette finalité du score et t'as rien d'autre pour le coup. À part le plaisir personnel d'explorer, quoi. Mais,
ouais. Mais là où tu as une forme de radicalité, c'est que du coup, tu peux dire « j'ai gagné, j'ai perdu ». Parce que t'as atteint un certain score. Il n'y a pas de comparaison, finalement, de se dire « ah bah j'ai perdu face à un adversaire de tant de points », ce genre de choses. C'est « j'ai exploré, j'ai pas exploré ». Et je trouve qu'il y a une forme un peu plus radicale, finalement, dans la partie solo, qui est pas idiote, quoi, que je trouve assez intéressant. T'as fait un peu de partie solo, Bartouf, tu nous avais dit?
Non, j'ai pas fait de partie solo, moi. Pas du tout.
Tu vois, là, par contre, tu parlais, du coup, de Next Station. Et pour moi, en fait, tu vois, je le dis dans l'ensemble, si un jeu est bon, qu'il soit du solo à plusieurs, où tu vas comparer et tout, ça m'est égal, tu vois, j'adore Welcome, il y a plein de jeux assez solo, même quand il y a des fois des artifices d'interaction, comme les contrats dans Welcome. Je m'en fous un petit peu, si les systèmes sont assez forts, tu vois, ils peuvent me provoquer de la tension tout seul, comme quand je joue à un jeu solo. Là où je me dis que peut-être il y a un truc qui manque dans la guilde, et tu vois, en fait, c'est rigolo que tu aies parlé de Kingdom Builder, parce qu'en fait, il y a un peu un côté, alors avec un système de choix différent, mais de Kingdom Builder de son côté, tu vois. Ou en fait, c'est comme si chacun faisait son petit Kingdom Builder. Ou un autre jeu de Knizia, enfin, c'est pas un jeu de Knizia, Kingdom Builder, mais ou des fois des jeux de Knizia. Mais je reviens du coup sur Next Station, et sur Kingdom Builder et tout. La grosse différence, c'est que moi, tu vois, j'ai pas la comparaison du plateau à la fin, parce que le plateau, il est plus ou moins vide quand même. Alors, à la quatrième manche, t'as quand même tes derniers cubes, mais t'as pas la contemplation de la partie qui apparaît sur ton plateau, surtout qu'on explore, en fait. Et tu vois, c'est ce que je disais par rapport au fait que peut-être quand même, j'ai besoin de cette interaction dans ce genre de jeu, par le plateau central qu'il y a dans Rebirth, qu'il y a dans Kingdom Builder, où à la fin, t'as le déroulé de la partie et de ce qu'on y a fait ensemble au milieu. Dans Next Station, à la fin de la partie, j'ai mon plan de métro. Et je peux le regarder, et il y a un effet, comme dans Mini Métro ou quoi, assez satisfaisant. Là où moi, ce que tu disais, Bartouf, du coup, la comparaison à l'autre, ou même en solo, hein, ça marcherait, du fait que c'est chacun de son côté, bah, j'arrive pas à me représenter un peu l'histoire de la partie qui s'est passée ensemble, quoi.
Et ce qui t'aide pas, je crois, c'est aussi une partie du matériel, c'est l'autre partie. Moi, un des autres points dont on n'a pas parlé, qui me semble intéressant, c'est, tu sais, tu essayes de faire des connexions entre des villes qui sont connues, et tu dois faire une connexion marchande entre les deux. Et on voit qu'est-ce que tu as, et quand tu as fait une connexion marchande entre deux villes, il y en a une que tu supprimes, tu n'as plus le droit de t'en servir pour faire une connexion marchande. Mmh. Et c'est assez dur de faire ces connexions marchandes, enfin c'est vraiment... c'est un des points, je trouve, sur lesquels ils auraient dû accentuer le système de score avec les objectifs.
Oui, je pense aussi, ouais. C'est sûrement un des éléments, c'est le plus intéressant, ouais.
Et ça, c'est juste un petit... Enfin, je sais pas. En fait, il aurait fallu trouver quelque chose dans la mise en scène, parce que tu utilises un petit jeton rond qui est béjasse comme le reste du plateau, et du coup, ça se voit pas, en fait. Et alors que ça devrait se ressortir, et on devrait se dire, t'imagines, j'ai fait là avec telle ville, avec telle autre ville, et c'est elles qui ont fait la connexion, et voilà quoi. Et ça devrait ressortir parce que c'est un des moments marquants du jeu et de la partie, quoi. Et effectivement, ça, à la fin, c'est à la différence des villages et des cubes de la dernière manche, et ben c'est pas assez visible, et du coup, dans la comparaison, faut aller le chercher, ce truc-là, alors que ça devrait nous sauter aux yeux.
Ouais, et puis les tours, je sais pas comment elles sont symbolisées quand on les a finalisées, je sais plus. Ah non, quoi, juste qu'on a fait une tour? Non, il doit y avoir quand même un truc.
Non, tu poses une tour physique sur le coin de ta carte, quoi. Qui sont d'ailleurs assez jolies, assez grandes.
Ouais, elles sont en bois hausses. Blanc. Ouais, ouais, assez beau, justement, effectivement, qui lui devient vertical par rapport à tout le reste.
Du coup, là, il y a de la mise en scène et ça raconte. Ah, regarde, je suis allé voir la tour au nord-est et tout, mais tu vois, je m'en souvenais même pas, donc c'est que ça n'a pas marché sur moi, mais pour le coup, c'est un symbole de ton exploration, quoi.
En plus, c'est vraiment la délimitation maximale de ta carte, quoi. Donc, et puis un peu ce côté est-ouest nord-sud.
Je suis allé au bout du monde, quoi.
Voilà, je suis allé au bout du monde. Et en plus, c'est les nuages, le dessin des nuages qui sont autour et qui qui donne une fin entière à ce monde-là. En termes de scénographie, en tout cas, c'est extrêmement réussi, cette, ce Meeple Tour. Quoi.
Même si leur scoring est nul aussi, même.
Est-ce que les cases-villes, qui fait, en effet, est un élément en plus en termes de scoring et puis même de narration qui est hyper important, est-ce que c'est pas, en fait, quelque chose de ultra sous-exploité parce qu'en fait, ils ont voulu mettre tellement d'éléments de scoring qu'ils ont rajouté celui-là et qu'en fait, on se rend compte bah, que c'est sûrement l'un des plus intéressants, mais après coup. Parce que ces cases-villes qui, finalement, ont peut-être le plus de sens dans en thématique, les expéditions marchandes, on est vraiment en train, justement, avec ces cases-villes, de faire un chemin de marchandage entre deux villes. C'est presque le cœur du jeu, et pour autant, c'est presque anecdotique dans les règles, dans la présentation du jeu, dans sa forme, en fait.
La mise en scène, ouais.
C'est très étrange.
Et c'est aussi important, c'est... Enfin, en termes de scoring, purement en termes de points marqués, si tu passes vraiment à côté, alors quelqu'un se concentre là-dessus, il peut faire des grosses différences là-dessus. Quoi.
Mmh, oui.
Donc c'est aussi, il y a aussi un focus de ce point de vue-là. Quoi.
Est-ce que vous avez d'autres éléments à voir sur
non
sur ce
non,
jeu
bon, écoute, j'ai fait à peu près le tour de ce que on avait à dire
ouais.
Des deux côtés.
Ouais. On parle pas des différentes maps. Je pense que ça n'a pas un grand intérêt.
C'est aussi intéressant que dans tous les... Bon, il y a quelques points de règles et tout spécifiques, mais qui sont pas game changer, comme on l'a dit. Mais par contre, comme dans tous ces jeux-là, tous les jeux à cocher, pour moi, juste, c'est des très bons exemples de level design dans le jeu de société. C'est, t'es face à une nouvelle map, tu vas réfléchir différemment avec les mêmes cartes qui vont sortir pourtant. Et ça, moi, je trouve toujours ça intéressant. Ces variétés de grilles, en fait, c'est des grilles hein, de jeux à cocher. Et ça amène à considérer le level design dans le jeu de société. Et c'est toujours une bonne porte d'entrée pour dire, regardez, dans ce média aussi, il y a du level design. En voilà une preuve, et c'est une preuve très simple à exploiter. Et la guilde en est une aussi, quoi.
Ok, impec. Eh ben, je pense que ça sera le mot de la fin pour ce débat, finalement, qui n'était en effet pas dans le sang et les larmes, mais ce qui est très bien aussi. Je pense qu'en effet, la guide d'expédition marchande est un jeu qui a des points très positifs, qui sont sûrement sous-exploités, et puis des points négatifs, mais qui sont un peu reconnus par tout le monde. Donc, voilà, c'était intéressant. On peut finir par un dernier mot. Chacun, si vous voulez essayer de convaincre nos auditeurs à tester ou pas le jeu. Comme Bartouf avait commencé au tout début, on peut commencer du coup le mot de la fin par Flavien.
Moi j'engage toujours, et c'est même, tu sais, moi je suis le premier à venir regarder, je l'ai pas bien, je vous le dis parce que ça vaut le coup de découvrir. Et, donc oui, essayez, hein, surtout que comme dit sur Board Game Arena, du coup t'as pas tu joues pas au marchand pendant toute la partie parce que le scoring du coup est automatisé, donc t'as pas et qui effectivement est quelque chose de très énervant dans les jeux de société quand t'es tout le temps à faire des échanges de pièces alors qu'en plus ça n'a aucun impact. Valbarav, c'est ça aussi, ça m'énervait. Mais donc ouais, tu vois, il y a effectivement deux points moi que je retiens, c'est vraiment ce sentiment de poser bagage, de l'exploration qui est assez bien retranscrit dans le jeu, que je trouve est vraiment une force, notamment vis-à-vis du titre anglais du jeu, et l'aspect asymétrique, hein, évidemment, avec ses pouvoirs assez forts, avec des cartes assez fortes, avec une asymétrie qui se construit progressivement plutôt que d'être initiale. Au début, on a tous les mêmes choses, et puis petit à petit, on va rajouter des choses. Pour moi, effectivement, l'équilibre entre l'inconnu et le truc est pas celui que je préfère, mais je trouve quand même qu'il y a suffisamment de hasard dans le jeu, tu vois, par l'ordre du tirage, par les pouvoirs et compagnie. Et j'apprécie le fait que même si on pourrait penser que tout est un peu scripté et que du coup tu vas un peu réfléchir trop, en fait le jeu ne provoque pas chez moi, peut-être qu'il peut provoquer chez l'autre, mais ce côté que peut provoquer certains autres jeux de ce calibre-là où je me dis t'as le cul entre deux chaises, t'es là à vouloir te dire un peu tranquillou, mais en fait t'es un putain de jeu abstrait à la con. Là non, il est quand même dans un équilibre que je trouve à peu près correct au niveau du sentiment de jeu et qui me permet moi d'y jouer comme je pense le jeu a envie que je le joue. Donc tu vois qu'il a une espèce d'ambition de ressenti de jeu et que je pense qu'il arrive à me la transmettre. Après le problème, c'est ce que je disais en début, hein, c'est que je retiens pas grand chose. En y jouant sur mon deuxième écran pendant que je fais autre chose, pourquoi pas, mais c'est un peu triste, tu vois, c'est pas ça qu'on attend d'un jeu de société. Finalement, ouais, tu vois, je pense que c'est effectivement le résultat de tous les désastres en termes de choix et qui représentent bien la ludographie des deux auteurs. Hein. Pour le coup, ils ont tendance à faire des jeux extrêmement balisés, très dans le game design contemporain, sans sortir du lot, et effectivement, c'est un jeu qui manque de radicalité et qui, du coup, moi, me laisse assez indifférent, ce qui, encore une fois, est le pire des sentiments que je veux éprouver quand je joue à un jeu de société, quoi.
Peut-être avec espoir qu'ils réutilisent cette mécanique et cette idée de saute-mouton pour un prochain, quoi.
Ouais, ça, ou effectivement, garder ces gros pouvoirs assez forts où t'as l'impression que les pouvoirs de l'autre sont pétés, quoi.
Ok, impec. Et toi, Bartouf, donc le mot de la fin pour pour la guilde des expéditions marchandes.
En fait, on est tout à fait d'accord avec Flavien. Je dirais pas beaucoup plus que lui. Seulement, moi, les points forts du jeu sont suffisamment forts et je les retrouve pas ailleurs. C'est aussi ça, parce que je pense que c'est ce qui fait que je le défends encore. Je les ai pas retrouvés dans d'autres jeux, ces sentiments-là. Enfin, en tout cas, cette alliance des deux, là, ce que j'appelle le sentiment de vague, et effectivement, où on se pose quelque part, et hop, on retourne en arrière, et on repart, et donc on avance dans notre expédition, enfin, dans notre exploration, et des pouvoirs qui nous tombent dessus, et où on se dit « Ah, ça y est, je suis enfin trop fort !» Enfin, je vais pouvoir faire quelque chose. Moi, ces deux aspects-là me permettent de passer outre les autres défauts qui sont objectivement là et qui sont et qui en fait enlèvent certainement une partie du plaisir dans le jeu, mais ces deux autres sentiments là sont suffisamment forts pour que ça m'emporte. Donc du coup, je pense qu'il faut justement essayer. Est-ce qu'en numérique, oui, tu disais, c'est vrai, ça enlève le parti marchande. Bon, après, moi, c'est moi qui ai peut-être un souci avec le numérique, donc moi, je dirais, il faut toujours essayer en physique. Mais en fait, effectivement, à la fin de cette conversation, je me dis aussi, je pense qu'il y a un vrai chef-d'œuvre à faire et que ils l'ont pas fait, c'est clairement pas le cas, et qui reste à faire. Mais pour l'instant, on a que ça.
Est-ce qu'on serait pas finalement un peu en train de parler d'un jeu qui pourrait pas forcément créer un genre, mais en tout cas inspirer un futur avec cette idée intéressante du saut de mouton et de l'exploration comme ça? Peut-être qu'on est finalement en train de parler d'un jeu qui pourrait être, comme on en parle aussi dans les jeux du mois ou les dossiers, etc., paradigmatique, jeu originel, etc. Finalement, est-ce que ça va pas être possiblement le premier jeu à proposer ce genre de sentiment? C'est juste qu'il est pas encore bien réussi et que rarement sont les chefs-d'œuvre dès le premier test, quoi.
Moi, je lui pardonnerais plus si c'était juste des erreurs et pas des tics de l'époque.
Ouais, ils sont conscients, hein, quand ils font ça, les deux auteurs. Hein. Ils ont fait assez, hein, des conneries comme ça, oui. Quoi. C'est le problème.
Ouais.
Mais après, ils continuent d'expérimenter, tu vois, dans leur truc en print and play et tout, et ils ont quand même leur petit truc où ils essayent à côté des trucs peut-être plus radicaux, mais des fois, c'est des jeux pour être édités, donc il faut un peu lisser tout ça, et du coup, effectivement, on tombe sur un jeu qui est trop lisse pour moi, qui est parce qu'il est édité, qu'il est prévu pour être édité à 45 balles. Du coup, le problème, c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être l'édition actuelle, quoi. Et par contre, effectivement, tu vois, moi, j'attends effectivement maintenant des bidules à cocher ou ce genre de jeu, mais avec forte asymétrie, progressive potentiellement, tu vois, comme c'est le cas ici. Parce que là, de tête, tu vois, j'essaie d'y réfléchir et j'ai pas l'impression que ce soit trop existant, tu vois, c'est pas dans les canons du genre du jeu à cocher, entre guillemets. Les jeux à cocher sont beaucoup dans le duplicate et dans l'égalité entre tout le monde. Bah, si ça pouvait inspirer des gens pour justement créer ces asymétries progressives fortes, tu vois, ce serait une bonne chose, hein, ça peut être une itération pour ça, et du coup, il aurait été utile pour ça, quoi.
Tout à fait.
Et pour procurer du plaisir à Bartouf.
C'est important aussi. Et ben, on fait un appel du coup aux auditeurs. Hein. Servez-vous de cette mécanique et de ces idées-là, ces sentiments. Puis il y a peut-être un truc à faire.
Il y a peut-être Miams, là. Je sais pas s'il va continuer à s'appeler comme ça. J'espère pas, parce que sinon je l'appellerai tout le temps Miasme. Mais de Jules Messot, qui était présenté à Cannes chez Kif, qui a apparemment, il y a des trucs de bourrin dedans. Et c'est un jeu à cocher. Donc, je l'ai pas essayé, malheureusement. Je sais pas si des camarades de l'équipe ont pu essayer ou si des auditeurs, auditrices. Dites-nous si vous sentez un peu ça dans Miams. Changez de nom. Pitié.
Impeccable. Et on peut clore, du coup, ce débat et ce le pour et le contre sur la guilde des expéditions marchandes. Merci beaucoup à vous. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcastproxyjeux.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires et surtout, parlez de nous autour de vous.
Et on est aussi sur Mastodon et Blue Sky également. Et surtout...
Exactement.
Tu allais le dire, mais on est sur Discord. C'est peut-être le plus simple pour discuter de manière un peu... comment
plus direct.
Dire. Ouais, et avec des échanges immédiats. Même si pour la postérité, les commentaires.
Et oui, ça c'est sûr qu'on les aura pas. Ou en fait des screens, et puis après vous les postez sur le forum. Mais bon, ça devient un peu compliqué. On se retrouve dans 2 mois pour un épisode du pour et le contre. Et en attendant,
jouez bien.